Alors vous savez tous que qu'entre Pessah et Shavuot, il y a une période donc de 49 jours, qu'on appelle la période du Homer, et qu'on doit compter chaque jour, comme on le fait, vous avez remarqué, donc chaque soir. Et c'est intéressant de voir, sur cette période de 49 jours, le Bnei Issachar, qui est un commentaire de la Torah, il dit que 49, ça fait même tête, si on, en valeur numérique, ça fait même tête, et même tête, c'est la même valeur numérique que Lev Tov. Lev Tov, si on traduit littéralement, ça veut dire le cœur bon. Lev, c'est le cœur, et Tov, ça veut dire bon. Alors, il faut s'interroger, pourquoi est-ce que ce langage-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire le Bnei Issachar? Maintenant, c'est ce genre de livre, quand il donne des petites allusions comme ça, en vérité, c'est des allusions très très profondes. Nous, on va essayer d'aborder juste une petite facette, un centième de ce qu'il a voulu dire, mais lui, il l'exprime dans un langage qui est très très concis. Il dit comme ça, il dit, tu vois que le mot... que le chiffre 49, il correspond à la valeur numérique des deux mots « Lev Tov », le cœur qui est bon. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et pour ça, il fait allusion à une Mishnah dans Perkei Avot. C'est marqué là-bas dans Perkei Avot, puisque vous savez qu'on lit le Perkei Avot aussi pendant toute la période du Homer. « Amar lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai le Talmidav ». Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves. « C'est où ur-ou, ezo-i derech yeshara, sheidavek ba'a Adam ». Quel est le chemin droit dans lequel un homme doit coller? Alors déjà, ce langage en lui-même, il faut le comprendre. Qu'est-ce que veut dire un chemin droit dans lequel l'homme doit coller? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un chemin? On a expliqué déjà plusieurs fois cette notion que le chemin, c'est une notion qui est abstraite. Parce que la route, les bâtiments, tout ça existe. Les repères géographiques existent. Mais le chemin à l'intérieur du repère, lui, n'existe pas. C'est quelque chose qui est abstrait. Si quelqu'un dit, bon, d'ici, comment est-ce qu'on fait pour aller à la République? Il dit, bon, bah, tu vas au bout de la rue, tu tournes à droite. Non, mais tu peux aller directement, tu peux passer par là-bas, tu peux passer par Rouen, faire marche arrière et revenir. Il y a plein de manières d'arriver quelque part, mais la trajectoire qu'on fabrique pour y arriver, elle est abstraite. Donc, un chemin, c'est-à-dire une trajectoire dans l'espace, c'est quelque chose d'abstrait. Alors maintenant, lui, il est venu, il leur a dit, quel est le chemin dans lequel un homme doit coller? Maintenant, le mot coller, il ne correspond pas avec le langage. Parce que Dovek, en hébreu, ça veut dire vraiment, par exemple, la colle en hébreu, c'est devek. D'accord? Leadbox, ça veut dire coller avec quelque chose. Mais on ne peut pas coller avec quelque chose d'abstrait. Maintenant, il y a un chemin abstrait comme ça dans l'espace. Vous voyez? Une trajectoire. Comme l'équateur. Quand quelqu'un te dit, on est à l'équateur. Tu sais quoi, l'équateur? Ça ne veut rien dire. Il y en a qui vont à l'équateur et ils payent un billet d'avion, 10 000 euros. Ils arrivent, ils disent, bon, alors, l'équateur. Il dit, bah, vous y êtes. Il dit, mais alors, c'est quoi? Il dit, bah, mais sur mon planisphère, il y avait un trait rouge. Mais non, c'est un trait. C'est virtuel. C'est ici, vous êtes à l'équateur. Alors, c'est pareil maintenant. Le chemin. Il a dit Rabbi Eliezer à ses élèves, allez chercher le chemin dans lequel un homme doit coller. Mais on ne peut pas coller dans un chemin, parce qu'il n'existe pas ce chemin. C'est quelque chose de virtuel. En plus, il dit quel chemin? Un chemin droit, derech yeshara, sheidavek ba'adam. Alors comment est-ce qu'on peut coller un chemin qui n'existe pas? Alors, la logique, elle est comme ça. Le chemin, en vérité, il est dans la tête de la personne. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est la trajectoire entre toi et ta conscience, entre toi et Dieu, entre toi et ta croyance. C'est un chemin. Maintenant, toi, tu sais comme on dit en français, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est pas bien. Maintenant, quand tu fais ce qui est pas bien, tu sais, tu sors du chemin. Mais quel chemin? Ben, le chemin de ta connaissance, le chemin de ta croyance, le chemin de ta conception. Tu sais que c'est, ça, c'est honnête, ça, c'est malhonnête. Tu dis que c'est malhonnête. Donc, tu sors du chemin. Le chemin, il est virtuel. Maintenant, il dit, essayez de trouver quel est le chemin virtuel auquel un homme doit coller. C'est quoi coller? Alors, c'est marqué, il y a un Rashi dans le Talmud. C'est marqué là-bas. À propos de... Bon, une expression, c'est marqué chez Davek Bedrachav, qu'un homme, il a une obligation de coller avec les chemins d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on a d'Akadosh Baruch Hu? On a ce qu'on perçoit de lui, on a ce que la Torah nous donne, on a ce qu'on arrive à ressentir durant notre vécu. Maintenant, à tout ça, il faut y coller. C'est quoi coller? C'est-à-dire qu'un espèce de, comme une espèce de mime. C'est-à-dire que nous, on essaye de se mettre en position parallèle avec ce qu'on a perçu d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle coller. Maintenant, toi, dans ta tête, exactement pareil, tu as le GPS. Alors, tu es perdu quelque part. Alors, tu mets ton GPS. Alors, maintenant, tu es dans une rue. Maintenant, le GPS, il te dit, il faut démarrer de cette rue. Donc, toi, qu'est-ce que tu te mets? Tu te mets. Maintenant, tu t'es mis dans l'axe du GPS. Maintenant, le cheminement du GPS, il est virtuel. Maintenant, toi, tu t'inscris dans un cheminement virtuel, mais tu crées un chemin réel. Alors, ça s'appelle que tu colles avec une trajectoire. Maintenant, il leur a dit, mais c'est quoi le chemin droit auquel un homme doit coller? Alors, maintenant, on dit c'est quoi? On va donner plusieurs. Chacun il va donner son avis. Mais on dit c'est quoi ce chemin? Il est droit. Maintenant, de vous à moi, si on dit, on parle du chemin de la conscience, on parle du chemin de la Torah, on parle du chemin de la vérité, qu'est-ce que c'est dire droit? Tout le monde sait que le chemin de la vie, il n'est pas droit. Qui est-ce qui croit que la vie, elle est droite? Tu fais un business, tu dis, moi, c'est facile. J'ai un produit, j'ai un business, j'ai un client, c'est facile. Non, il y a toujours un trailway. L'autre, il n'arrive pas, l'autre, il livre pas, l'autre, il ne fait pas exactement dans les normes, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne date. Pourquoi c'est comme ça? C'est pareil. Tu veux te marier, tu dis, bon, je viens, bonjour, on se marie. Non, très loin, elle revient, elle repart, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. En fin de compte, tu te maries avec sa copine. Puis celle-là, je ne l'attendais pas, vraiment. Je ne l'ai même pas regardée, c'était l'entremetteuse. Et puis un jour, j'ai dit, bon, elle m'a dit, puis je parlais tout le temps avec elle, alors où elle en est, elle fait la tête, elle t'aime plus, elle t'aime plus. Puis un jour, tu lui as dit, et toi? Moi, je t'adore. Oh. Il fallait le dire tout de suite. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu vois que le chemin, il n'est pas droit. Le chemin n'est pas droit. Le chemin de la teshuva, est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est facile? Il n'est pas facile. Tu rentres dans le mur, tu reviens, tu repars, tu te chauffes, tu t'emballes. Après, tu apprends, après, tu reviens, après, tu regrettes, après, tu vois que tu te moques de Dieu, après, tu récupères. Un jour, tu craques, tu es devant le cotel et tu dis, Dieu est là. Donc, tu vois que c'est pas droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver le chemin droit dans lequel un homme doit coller. Mais il n'est pas droit, le chemin. La logique, elle est incroyable. Dans ta tête, le chemin, il est droit. Maintenant, le cheminement physique pour y arriver, il n'est pas droit. Tu dois savoir où tu veux aller. Tu dois savoir ce que tu veux. Et chacun, il sait au fond ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le mode d'application, il n'est pas clair. Tu fais des enfants, tu dis, bon, au Hachem, j'ai des enfants, mais à l'école juive, la Torah, Mama, Dada, les professeurs, le Chumash, la Mishnah. Il te sort une baha comme ça, 14 ans. Tu mets d'où il sort ce gosse? Tu viens de comprendre que c'est pas du cinéma. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Ah, tu dis, oui, tu sais, je suis très déçu. J'attendais pas ça de mon fils. Tu viens de comprendre que ton fils, c'est ni toi, ni le rêve de ce que tu aurais voulu être, ni l'extension de ce que tu aurais pu être, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est dur. Oui, mais quand même, je suis quand même très déçu. Mais déçu de quoi, le pauvre? Lui, il est lui-même. Toi, tu es toi-même. Alors, chacun, il est lui-même, c'est très bien. Ah, il n'est pas toi-même. C'est bien, tu vas découvrir que le pluriel, ça commence à deux. Ça sera pour toi. C'est bien. C'est quelqu'un d'autre. C'est dur à accepter. Ah, mais moi, je ne pensais pas, j'avais des grandes ambitions. Les ambitions, c'est pour soi, on ne peut pas avoir des ambitions pour l'autre. Comme si tu dis à quelqu'un, tu dis, tu sais, tu devrais donner 30 000 euros, c'est bien pour toi. Ça va, merci. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est bien d'avoir de l'ambition pour soi, mais tu peux avoir de l'ambition pour l'autre. En plus que l'autre, tu lui crées un chantage émotionnel, comment est-ce que ça se fait que tu ne rentres pas dans le cadre de l'ambition que moi, j'avais pour toi? C'est-à-dire que je veux être moi à travers toi, mais je ne peux pas être moi à travers toi, ni toi à travers moi, c'est chacun pour soi, chacun doit être lui-même. Il dit donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un chemin droit dans lequel un homme doit coller. Alors regardez, chacun, il a essayé de donner son interprétation. Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Aïn Tova. Rabbi Eliezer, il a dit, c'est quoi le chemin droit dans lequel un homme doit aller? On a compris donc, ça veut dire, c'est quoi cette trajectoire? C'est quoi ce repère qu'un homme doit avoir pour pouvoir se déplacer de manière intègre à l'intérieur de son vécu? Il a dit, Rabbi Eliezer, Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Si on traduit littéralement, ça veut dire un œil bon. Maintenant, je vous ai déjà expliqué, à peu près 11 748 fois, que le mot Tov dans la Torah, il ne veut pas dire bon. Bon, c'est en ulpan. Oui. Tov me'od. Hazak barur. Ouais. Non. Tov dans la Torah, ça veut dire toujours entier. Par exemple, quand Dieu il termine la création, il a dit Ve'ine Tov me'od. Et voici que c'était très bien, parce que c'est complet. À chaque fois qu'une chose est complète, on l'appelle Tov. Oui. Une joie, elle est complète. Parce qu'elle est tova. Maintenant, un mariage, c'est quoi? C'est la rencontre entre le mazal de l'homme et le mazal de la femme. Donc, quand les deux mazalot se rencontrent, on dit mazal tov. Maintenant, si les deux mazalot ne se sont pas encore rencontrés, on dit mazal maja. Ouais, bon, alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de complémentaire, il y a quelque chose de complet. Alors, ça s'appelle tov. Maintenant, qu'est-ce que c'est Aïn Tova? C'est un œil complet. Mais ça veut dire quoi un œil complet? C'est quoi l'œil? L'œil, vous savez très bien que l'œil, c'est pas un outil pour voir. Laissez ça aux scientifiques ou là aux médecins qui sont un peu jeunes dans la connaissance. Ils démarrent à peine, oui. L'œil, c'est le lieu du contact. C'est le lieu, c'est à travers l'œil qu'on est lié aux choses. Donc maintenant, quand quelqu'un, par exemple, quand on dit au vu de vos dires, je me permets de concevoir, tu dis, mais enfin, on ne peut pas voir des dires. Si on se place dans cet angle, je trouve que ta femme est une femme bien. Mais ta femme n'est pas anguleuse. C'est-à-dire quoi? Anguleuse peut-être, mais anguleuse. Ouais. C'est-à-dire quoi un angle? La logique, elle est qu'en vérité, un angle de vue, une vision, c'est une manière de coller à la situation. d'être lié à la chose. C'est pour ça que la Torah, elle fait très attention. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que ton œil, c'est un lien direct avec ta neshama, qui passe aussi par ton esprit. C'est pour ça qu'on dit une largesse de vue, ouais, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Mais quel rapport entre l'esprit ouvert? L'autre, il a des petits yeux, il a l'esprit ouvert. L'autre, il a des grands yeux, l'esprit fermé. Mais quel rapport avec la vue? Je te dis pourquoi? Parce que la vue, c'est l'accessibilité à la réalité. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que ça va dans les deux sens. C'est pas simplement qu'avec les yeux, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur. C'est aussi qu'on fait rentrer l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est que celui qui a une vue large, il voit les choses en grand. Et celui qui a une vue petite, il voit les choses en petit. Et c'est pas une question de lunettes. C'est une question de... C'est une maladie. Ça s'appelle miskine. Il y a les miskines. Il taille son crayon. Tu dis, achète-toi un critérium. Non, hasvé shalom. Je le tiens de mon père. Il m'a porté bonheur. J'ai fait ma sup, ma spé avec. Mais papy, tu as 64 ans. Et alors? Il n'y a pas de petites économies. Pourquoi t'es mesquine? Pourquoi t'es mesquine? Je te propose un deal à 1 milliard. Qui c'est qui paye le taxi pour aller au notaire? Mais Yahbab, je te donne 1 milliard. Je te donne 1 milliard, tu veux pas payer le taxi? Mesquine. C'est signe. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Ils ont été mal démoulés au départ. Et... Aïn Tova, c'est quoi? C'est cette ouverture. Une générosité d'esprit. Ouais. Une compréhension. Tu peux comprendre, par exemple, que la vérité est le pluriel. C'est pas grave. Ah non, c'est pas possible, Hasvi Shalom. Ils sont niais, les gens. Je te parle même pas de la rue, je te parle même pas de la science, je te parle même pas de la... Même la Torah, elle est plurielle. Parce qu'il faut, il y a des millions d'angles de vue dans la Torah. La Chassidut n'a rien à voir avec la Gemara. La Gemara n'a rien à voir avec la Halakha. C'est comme ça. Tu dis, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, comment une telle contradiction? Mais c'est pluriel. La vérité est plurielle. Accepte. Numéro 1. Numéro 2, la vérité, elle est pluridimensionnelle chez l'homme. Parce qu'il y a la vérité de l'un et la vérité de l'autre, qui sont les vrais les deux. Ouais. Ça fait 6 milliards de vérités, c'est un peu... D'accord. Après, la vérité, elle est pluridimensionnelle dans l'homme, dans le temps. C'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure que le temps évolue, la personne pense différemment, au niveau unitaire, ensuite au niveau collectif. Maintenant, ça fait pluridimensionnel dans le temps, dans la personne ponctuelle, plus dans le temps collectif. Alors, ça fait que la vérité, elle change tout le temps. Ça va? Tu dis, mais ça déstabilise un peu. Nous, on préférerait facilité. Ouais, genre, tu fais une croix et tu la regardes. Non, c'est plus compliqué. Ça bouge. Ça évolue. Ça change. Et toi, il faut que tu sois là pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Et si tu vas me dire, bon, c'est un peu trop abstrait. Écoutez, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Mais tu n'as pas compris. Ta femme, elle change. Ton mari, il change. Tes enfants, ils changent. Tout change. Tu n'as pas compris encore. Tout change. Donc, si tout change, tu as intérêt dans le move pour savoir ce qui se passe autour de toi. Parce que sinon, tu dis, ah oh ben écoutez, ça a été tellement vite, en fin de compte. Il y a un rave, il a dit, avant, une génération, c'était 25 ans. En général, une génération, c'est 25 ans. Tu as 25 ans, encore 25 ans, une autre génération. Si on n'est pas de la même génération, c'est 25 ans. C'est le temps de mettre au monde, à peu près 25 ans. Ouais. Ils ont dit, les rabbanim, aujourd'hui, une génération, c'est 1 an. Ça veut dire qu'un an après, tu ne comprends pas ce qui se passait il y a 1 an. Maintenant, 5 ans après, tu comprends rien. C'est-à-dire que les gens qui ont 5 ans de moins de toi, tu dis, mais on n'est pas dans le même monde. 5 ans. Oui. Les gens, ils évoluent trop vite, dans le bien comme dans le mal. C'est une vitesse incroyable. Tu dis, c'est pas possible, mais comment tu peux parler comme ça? Ouais. D'accord. Tu vois un type à Oran en 1960. Son père l'engueule, il baisse les yeux. En 2005, ouais, il met un coup de poing dans la figure de son père. Je vais t'éclater la tronche. Tu ne me rends pas la télécommande, je t'éclate la tête. Va dormir, pauvre type. Ça, c'est l'enfant moderne. Mais je comprends, un enfant, c'est un enfant. Je te dis, en 65, à Oran, son père, il disait, va dormir, va dormir. Je ne sais pas, j'essaie de vous donner l'accent. Le fils, il levait même pas, il regardait même pas son père. Mais il a. Et le père, il avait tort. Maintenant, le père, il a raison. Mais il a tort. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu l'ouvres ta grande... Ça, c'est le père. C'est de la folie. C'est les générations. Dainara, quelle vitesse! Pour sortir de la route, c'est très rapide. Hein, ouais. C'est marqué ici. Aïn Tova, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, t'es obligé d'avoir une ouverture d'esprit. T'es obligé d'avoir une ouverture de compréhension. Parce que les choses, elles vont très vite. La vie, elle est courte. Qu'est-ce que tu peux garder? Vous savez, j'ai mes idées. Oh, vous savez, je vois les gens, il me faut rigoler. Vous savez, moi, j'ai mes idées. Dis-moi, t'as quel âge? 50 ans. Depuis quel âge tu les as? 14 ans. Mais ils ne sont plus adaptés. Elles ne sont plus d'actualité. Tu veux que je te dise, la vie a changé. Ouf. Toi, t'as changé. Tu crois? Ben oui. T'es plus la même personne. Donc, Arin Tova, c'est quoi? Que quelqu'un, il a une largesse d'esprit, on l'a compris maintenant, qui devient une espèce d'accumulateur d'éléments autour de lui, pour qu'il puisse se maintenir dans ce chemin droit. Parce que ce chemin droit, mais il est un peu bouleversé, il est un peu crispant, il est un peu déstabilisant. Donc, pour garder ce cheminement de droiture et de conscience dans la crainte d'Hachem, il faut avoir un œil ouvert. C'est ce qu'il dit, Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua, il dit, non, chaver tov. Il faut avoir un bon ami. C'est quoi un chaver? Un chaver, pourquoi le mot chaver? Donc, c'est quoi chaver en hébreu? Chaver, ça vient du chibour. Chibour, c'est un lien. Alors, pourquoi en français on dit, vous savez, je suis très attaché à cette personne? Ça ne veut rien dire un ami. Pourquoi un ami, c'est attaché? Le verbe. Le verbe qui va avec le mot, la déclinaison du mot ami. Ami, amitié, amical. Tu dis amical, ami, attaché. Quel attaché? Maintenant, depuis quand on est attaché à un ami? Maintenant, en hébreu, ça marche. Parce que chibour, ça veut dire lien. Et chaver, ça veut dire un ami. Maintenant, le contraire d'un ami, c'est quoi? C'est barach. Barach, c'est celui qui te fuit. Borear, c'est fuir. Chaver, c'est lié. Borer, c'est fui. Donc, ça veut dire que toi, tu dois regarder autour de toi à qui tu es lié et qui te fuit et qui tu fuis. Qui sont tes amis? Alors, c'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est vrai, ça rapporte pour toi. Ça, c'est le côté exploitation. Mais c'est aussi un ami, c'est aussi quelqu'un qui peut compter sur toi. Ah, tu dis, ah, c'est à double sens. Bah oui. C'est... Quand t'es lié, quand t'es attaché, ça, c'est un truc débile, hein, je m'excuse de vous le dire. Vous prenez deux bâtons, vous attachez avec une ficelle. Ça va être choquant, je ne sais pas si vous pourrez assumer psychiatriquement le cas. Vous prenez deux bouts de bois, vous les attachez avec une ficelle. Et bien, quand vous tirez sur un, l'autre, il suit. Hein. Et quand vous tirez sur l'autre, et bien, le premier, il se rapproche. Oh, c'est choquant. Vous êtes attaché. Ben, c'est exactement pareil. Toi, maintenant, tu t'attaches à quelqu'un. C'est-à-dire quoi, tu t'attaches à quelqu'un? C'est-à-dire que c'est un ami pour toi. Maintenant, un ami, c'est quelqu'un que quand tu fais du bien, il est là pour te le dire. Hazak Obaour. Quand tu fais des erreurs, il est aussi là pour te le dire. C'est-à-dire c'est un repère. C'est un repère. Maintenant, si un ami te voit te planter, tu dis, je ne vais pas le choquer, le pauvre, je ne vais pas détruire son amitié, je ne vais pas le remettre en cause. Ah, c'est pas ton ami. Un ami, c'est quelqu'un que Baruch Hashem, il te caresse quand ça va bien et il te met une telecha quand ça ne va pas. Ah, si tu as la haine contre lui quand il est dur avec toi, c'est que ce n'est pas un ami. C'est pas un ami, c'est une espèce de relationnel de proxénétisme. Tu me fais plaisir, je te fais plaisir, qu'est-ce que tu me donnes? Je te donne de la reconnaissance, je te donne de l'amitié, je te donne des coups de fil, je te laisse des messages, tu me rappelles. Wade, espèce d'échange comme ça, bizarre. Mais c'est pas normal. Des amis, c'est des amis. Ah non, on est liés l'un à l'autre. Maintenant, on est dans la même galère. Et on est dans le même bonheur. On est liés. Donc, c'est un repère. Baruch Hashem. Imagine-toi maintenant, quand vous roulez sur la route, tu sais, il y a un truc bizarre sur la route. Par terre, ils ont mis des lignes blanches. Tu sais, ils tracent des lignes blanches. C'est des vrais amis ou des faux amis? Maintenant, imagine un type qui travaille dans les autoroutes. Qu'est-ce qu'il se dit des fois de temps en temps avec des copains? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une rigolade. Les lignes blanches, on va pas les mettre comme il faut. On va les mettre genre elles vont dans le mur. Ce qu'on appelle des faux amis. Après, il y a eu un accident. Vite, ils viennent vite, ils enlèvent les lignes blanches et les remettent droite. La ligne blanche, c'est un ami. C'est un repère. Le parapet, là, je sais pas quoi, d'autoroute, là. La barrière. C'est un ami. Ben, c'est comme c'est un ami. Maintenant, quand toi, tu roules et tu t'endors, et puis tu entends. Tu dis, ah, je dois être pas sur la bonne fréquence. Mais non, c'est la voiture qui est en train de frotter sur le parapet. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques les autoroutes parce qu'ils t'ont rayé la voiture. Tu devrais attaquer les pompes funèbres parce que tu devrais être mort déjà. Donc ça raye, ça fait mal, c'est un ami. Chavertov. Chavertov. Il dit, Rabbi Yehoshua, pour qu'un homme il arrive à se maintenir sur la route, il faut qu'il ait un bon ami. Et un bon ami, c'est pas toujours quelqu'un qui fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a dit ce chemin, il est abstrait. Et un bon ami, au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ce qu'il entend, il sent quand tu tournes pas bien. Tu dis, ça va pas en ce moment, toi. Ouais, laisse-moi tranquille, tu prends la tête. Moi, je te dis comme ça. Moi, je te parle comme mon frère. En ce moment, ça va pas dans ta tête. Tu fais des choses bizarres. Tu te conduis mal. Fais attention à toi. C'est un bon ami. L'ami, il a pas besoin de voir. Il sent. Il sent que ça va pas en ce moment. Tu prends un chemin tordu. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Comme tu veux. Moi, je te dis que ça va pas en ce moment. Avant, tu mets des mini-jupes. Maintenant, tu mets des mini-jupes. Maintenant, tu mets plus la jupe. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait chaud. Oui, oui, très chaud. Qu'est-ce que veut dire ça? Je te le dis. Voilà, j'étais une copine. On était ensemble à l'école juive. Je te dis, Marilyn, tu tournes court. Fais attention. Je te le dis. Ah, oh, tu me prends la tête, tu me saoules. Je te l'ai dit. Après, quand tu reviendras pleurer sur mon épaule pour me dire... tu sauras pourquoi, de qui on parlait. Ça s'appelle une amie, sa chaver. Rabbi aussi Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Alors là, c'est très rigolo. Le mot voisin, c'est Shachen, d'accord? Mais le mot Shachen, il vient de la racine Shochen, Mishkon, ça vient de Shechina. Non, c'est quoi la Shechina? C'est la présence divine, d'accord? En vérité, on dit, comment on appelle un Shochen? Un résident. Parce que c'est ce qui réside. Mais c'est quoi ce qui réside? Alors je comprends pas, un Shochen, c'est quoi? C'est un voisin ou c'est un esprit qui réside? En vérité, c'est les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un voisin, tu dois bien réfléchir, au-delà de la personne qu'il est, aussi l'esprit qu'il dégage. Tu as des gens comme ça, ils sont gentils, ils sont sérieux, mais il y a un esprit un peu... Chaque maison, elle contient un esprit. C'est l'esprit qu'on dégage. Par exemple, une maison tordue, elle dégage un esprit tordu. Ah, pourquoi tu... Ah, comme ça. Une maison profonde, elle dégage un esprit profond. Une maison de pureté, elle dégage un esprit de pureté. Tu rentres, tu te sens bien, tu dis, je me sens rassuré. Tu rentres dans une maison, c'est propre, hein, c'est clean et tout ça, mais tu te sens mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, c'est tout propre, c'est tout clean, c'est tout propre. Après, tu ouvres les placards, tu vois tes cassettes bizarres, tu vois... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites la nuit? La nuit? Veux-tu rester ce soir? Oui, pour mettre le feu. D'accord. Mais ça, bon, ça, je sais que c'est un petit peu mystique, les gens ont un petit peu du mal à croire, parce que bon, bah, nous sommes formés, notre esprit, au concept rationnel de développement du concept occidental de pensée unique. Mais, donc les gens pensent que c'est de la mystique. En vérité, c'est faux. Chaque endroit, il contient un certain esprit, qui est dégagé par les personnes qui sont. Chaque personne, elle est émettrice. Il y a des gens qui sont émetteurs de vibrations rassurantes. Il y a des gens qui sont émetteurs de vibrations captivantes. Des émetteurs de vibrations remahante. Bon, si vous n'avez pas vu de psychanalyse, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens comme ça, tu les vois, tu dis, pourquoi j'ai envie de mourir? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi maintenant? Maintenant, j'ai envie de mourir. Pourquoi? À chaque fois que je te vois, j'ai envie de mourir. Pourquoi? Il y a des gens comme ça, dès que tu les vois. Ouais. Ça va? Ouais, tu sais. Ouais. C'est pas évident. Mais t'es bon? Oui, mais tu sais... Je t'avais dit de m'appeler. Tu ne m'as pas appelé. Bon, mais t'as le cancer, t'as un problème. Non, mais tu ne m'as pas appelé. Tu sais que pour moi, le téléphone, c'est à la vie, à la mort. Pourquoi tu me mets la rhumma? Pourquoi tu m'étouffes? Pourquoi tu te balades avec tout le cimetière de pantins sur la figure? Pourquoi? Mais souris, sois sympathique, sois cool. Ah, oh, mais tu sais ce que j'ai vécu aujourd'hui? Eh ben, moi aussi j'ai vécu. Bah, toi aussi, toi, tout le monde vit. Ben, on a tous des soucis, on a tous des problèmes. On n'est pas obligé de les distribuer comme une espèce de bouche d'égout qui est ouverte perpétuellement. Pourquoi? C'est marqué ici. Ça s'appelle Shachen Tov. Choisis tes voisins. Choisis les gens que tu côtoies. Parce que tu le veuilles ou non. Mais encore une fois, on parle pas des fous, on parle pas des tordus, on parle pas des... C'est un esprit. Chaque maison, elle a un esprit. T'as un voisin, bah, Hachem, il est gentil, sympathique, il est cool, il est... T'as un voisin, ou là, une voisine, un peu... Bonsoir. Non, mais je rentre chez moi, là. Prenez pas un verre. Je suis marié, dégage. Ah, oh, pardon, oh! Non, mais ça veut dire... Pourquoi il y a des gens avec des voisins bizarres? Eh ben, c'est un esprit. Donc, la Torah, elle te dit, maintenant, il y a un autre père qui est très important pour savoir comment est-ce que tu vas te déplacer. C'est, qu'est-ce qui... Est-ce que tu es capable de percevoir ce qui réside autour de toi? La Torah, elle dit, tu dois avégoler les makom hachamim. Tu dois partir, t'exiler dans un endroit de sage. Tu vas aller dans un endroit de sage. Moi, je parlais avec des gens. Ils me disent, ils étaient à tel endroit. Bon, à l'époque, c'était un endroit à côté de Bâle, là-bas. Ils avaient créé comme un espèce de village, que des religieux, que des rabbins. Ils étudiaient la Torah toute la journée. Il m'a dit, mais quel, il y avait Rav Israël à l'époque de Rav Israël, de Sarcelles, il était là-bas. Des rabbins. Il m'a dit, mais on était dans un autre monde. Un autre monde. Tu dis, mais à quoi ça sert de s'exiler comme ça? Il vaut mieux être carrément au sentier, dans un quartier. Pourquoi? Pourquoi pas? De temps en temps, un petit peu. Tu prends de l'oxygène. Il dit, c'est un endroit. Parce que l'endroit, il véhicule l'esprit qu'on met à l'intérieur. Et chacun d'entre nous, il crée un esprit. Alors, la Torah, elle te dit, choisis un endroit où ça réside bien. Où les résidents, ils sont des gens Shachen Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne elle-même, elle est complète, et la personne elle-même, elle aimait quelque chose qui est complet. Faut pas que tu aies du plaisir, mais des remords. Vous savez comment c'est? J'étais passé des vacances extraordinaires, bon. Bon, enfin, c'était un peu une ambiance un peu superficielle. Ils sont très très gentils, mais enfin, ils, un peu calculateurs. Pourquoi il y a un mais? S'il y a un mais, ça veut dire que c'est pas complet. Or, toi, tu cherches le tov. Le tov, c'est quoi? C'est ce qui est bon, c'est ce qui est complet. Tu dois trouver quelque chose de complet. Shahen tov, c'est complet. Haver tov, c'est complet. Tu cherches le complet. Après, c'est marqué. Rabbi Shimon Omer, Arouet Anolad. C'est quoi ce qui va te permettre à toi de pouvoir maintenir ce chemin droit dans la vie? C'est quoi? C'est le principe de Rouet Anolad. Rouet Anolad, on l'a déjà expliqué des millions de fois. Celui qui voit l'avenir. Ça vous dit quelque chose ou non? Non? Oui? Non? Beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut voir l'avenir? On peut le voir ou non? On dit Rouet Anolad. Si on traduit littéralement, ça veut dire celui qui voit ce qu'il va advenir. Advenir, ce qui va naître. Nolad, c'est ce qui naît. Maintenant, quand une femme est enceinte, tu vois pas le bébé. C'est le Nolad. Quand il est né, tu le vois. Tu dis, oh, c'est un garçon. Bon, oh, un singe. Bon. Donc ça veut dire que on peut pas voir l'avenir. On peut spéculer sur l'avenir, on peut anticiper sur l'avenir, on peut réfléchir sur l'avenir, on peut envisager l'avenir, mais on ne peut pas voir l'avenir. Alors qu'est-ce qui vient? Les Chachamim te disent, Ezeu, Chacham, Arouet Anolad. Qui c'est le sage? Celui qui voit l'avenir. Ici, c'est marqué Rabbi Shimon Omer. C'est quoi? Comment quelqu'un va se maintenir dans le chemin droit? Celui qui voit l'avenir. Mais on ne le voit pas! Alors, on le voit ou on ne le voit pas? En vérité, on le voit. Je vous ai déjà expliqué, déjà, que l'avenir, c'est un jardin. Mais le passé d'un jardin, ce sont des graines. Maintenant, celui qui est connaisseur, quand il voit les graines, il voit le jardin. Celui qui n'est pas connaisseur, quand il voit les graines, il voit des graines. Il dit, oh, des graines. C'est un jardin. Maintenant, celui qui, à partir des graines, arrive à percevoir le jardin, on dit qu'il voit l'avenir. Tu dis, mais tu te moques de moi, tu m'as parlé de l'avenir, mais ce n'est pas l'avenir, ça c'est le présent. Extraordinaire, mon frère. Ça veut dire que le présent et l'avenir, c'est la même chose. Sauf que l'avenir, c'est quand c'est réalisé, et le présent, c'est quand c'est potentiel. Donc celui qui sait voir le potentiel de la réalité, il connaît l'avenir. Ça. Comment on appelle ça en français? Le recul. Alors, je vous donne la règle pour celles qui prennent des notes. Oui, c'est une formule mathématique. Étant donné que celui qui regarde son passé comprend son présent. Ça va? Étant donné que celui qui regarde son passé comprend son présent, puisque son présent, souvent, c'est la suite de son passé. Donc aujourd'hui, quand tu vois ton présent, tu comprends. Quand tu regardes ton passé, tu comprends ton présent. Alors, on t'arrive au bac, tu dis, oh, je comprends rien. Tu regardes ton passé, tu vois que tu as passé un an au café. Tu comprends. Tu dis, oh, j'ai compris pourquoi je comprends rien. Je croyais que c'était le flipper était une matière au bac. Le flipper n'est pas une matière au bac. Le glandeur non plus. Non. Tu sais, j'ai un doctorat de glandage, je pense que je vais passer du premier coup. Oui, sous la porte, ouais. Donc, quand tu regardes ton passé, tu comprends ton présent. Ça va? Maintenant, le présent, c'est le passé de l'avenir. Donc, il suffit de mettre son présent au passé pour connaître son avenir. Si vous allez me dire, mais attendez, bon, c'est joli, genre passé, avenir, moi, je fais des jeux de mots. Mais ça veut rien dire, mettre le présent au passé. Mais si ça s'appelle le recul. Quel est l'avantage du passé? C'est que tu as du recul, c'est que le temps a passé. Donc quand tu te retournes, tu dis, ah, tu fais, ah, ah. C'est A. C'est quoi A? Pourquoi c'est écrit avec un H, le A? Parce que les gens, quand ils regardent leur passé, comme ils ne l'assument pas, ils sont obligés de prendre du H. H. C'est pas grave. Bon, alors, donc quand tu regardes le passé, tu as du recul, alors tu comprends ton présent. Eh bien, il suffit que tu prennes du recul sur ton présent et tu connais ton avenir. Pourquoi tu attends la surprise de l'avenir? Oh, je m'attends. Oh, vraiment, je pensais pas. J'étais très déçu. Puis c'est pas ce que je croyais. C'est vraiment difficile. Et c'est trop. C'est normal. Les graines de carottes donnent des carottes. C'est un truc abominable. T'achètes des graines de carottes. Par exemple, tu veux des graines de poireaux. Ah, les graines de poireaux, 6 euros. Oh, les graines de carottes, 0,70. Je les prends. Tu les plantes. J'espère que je vais avoir des poireaux. J'espère. Ce sont des carottes qui poussent. Donc, de là, on apprend une règle. Par le grand professeur Truffaut, je ne sais pas si vous l'avez connu. Il a dit, en général, ce qui pousse, c'est ce qu'on a planté. Vous savez cette règle? Ce qui pousse, c'est ce qu'on a planté. D'accord? Maintenant, à ton avis, quand toi, tu t'es planté, qu'est-ce qui pousse? Mbaha, oui. Tu t'es planté. Demandez au professeur Truffaut, qu'est-ce qu'il en pense? C'est comme ça. Pour ça, tu dis, oh ben, j'ai été planté. Bah oui, t'es planté, oui. Ça veut dire essayer de comprendre qu'il y a une logique, malheureusement, tellement claire, tellement profonde et tellement mathématique à la vie. Tu vois, les gens, ils veulent du mystique, ils veulent du rêve, ils veulent du magique. Mais la vie, c'est pas magique. La vie, c'est logique. Mais est-ce qu'on est d'accord d'assumer? C'est pour ça qu'ils veulent s'embrouiller avec des histoires, avec des superfictions, avec des effets spéciaux, avec des halouettes. C'est pas la peine, là. C'est clair. Tu plantes et tu récoltes. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que Dieu a créé des plantes. J'ai déjà demandé. À quoi ça sert les plantes? Ça sert à rien. Dieu aurait pu faire que toutes les vitamines dont on a besoin, elles sont dans l'air. Et en respirant, on se nourrirait. Pourquoi Dieu a créé des plantes? Parce que tu vois, regarde, regarde, tu plantes, ça pousse. Donc tu plantes du bien, ça pousse. Tu plantes du mal, ça pousse. Tu dis, mais d'où ça sort tous ces problèmes? Tu les as plantés. Doucement, doucement, tu as fait ton petit chemin. Alors ça pousse. Et ça s'appelle quoi? Roétanolade. Maintenant, pourquoi, encore une fois, quelqu'un qui veut se déplacer dans l'espace et avoir cette perpétuité de conscience et de vérité, comment il doit faire? La Torah te dit, c'est très simple. Tu dois être capable d'anticiper. Là, c'est vraiment le GPS, c'est l'exemple de tout à l'heure. Il dit, Rabbi Shimon, c'est le GPS. Un homme qui est capable d'envisager l'avenir, un homme qui est capable d'anticiper l'avenir, il a le GPS. Donc comment il sait s'il est dans le chemin droit ou non? Il y a d'autres manières de devenir une star. Comment quelqu'un sait s'il est le chemin droit? Ouais, simplement parce que il a une capacité d'anticiper sur l'avenir. Donc comme il anticipe sur l'avenir, il trace dans sa tête un chemin virtuel et ensuite il s'inscrit dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la réalité qui est la tienne, tu peux projeter la réalité, c'est-à-dire à partir du potentiel, tu peux projeter la réalité et ensuite, en fin de compte, tu ne fais que t'inscrire dans la réalité que tu as déjà anticipée. C'est pour ça que les gens intelligents n'ont jamais de surprises. Et les gens idiots, ils n'ont que des surprises. Et les gens comme ça, je vous ai déjà expliqué ça en psychiatrie, ça s'appelle le syndrome du haut. C'est des gens toute leur vie disent Oh, elle est partie. Oh, il m'a planté. Oh, j'ai fait un dépôt de bilan. Bah oui, mais t'as une compta? Non. Tu payes les impôts? Non. L'URSSAF? Non. Tu mets de l'argent de côté? Non. Tu te sers dans la caisse? Mais bien sûr. T'as remboursé la banque? Pouf, courir. Tu sais, il faut que tu changes de métier. Tu devrais te lancer dans la production industrielle de dépôt de bilan. Parce qu'on sent que t'es fait pour ça. On te voit arriver, on sent que... Il n'y a pas de surprise dans la vie. Je vous dis, il n'y a pas de surprise. Les surprises, ça vient de ton niveau d'ensommeillement. Elle dit la Gemara, la vache, jusqu'à l'abattoir, elle ne sait pas qu'elle va mourir. C'est vrai, tu la vois la vache. Laisse tranquille. Après, elle est au pré. Marguerite, oui. Après, elle monte dans le camion. Après, elle roule sur l'autoroute. Après, elle arrive à l'abattoir. Et là, quand elle entend les cris, elle sent l'odeur du sang, elle s'affole. Elle dit, la Gemara, l'animal, jusqu'à l'abattoir, il sait pas qu'il va mourir. Mais la Gemara a bien précisé, l'animal, jusqu'à l'abattoir. Mais l'homme, il n'a pas besoin d'attendre la fin pour commencer à comprendre qu'il va se passer quelque chose. Mais dans la mort, c'est pas forcément la mort, le samouraï qui t'attend avec le glaive, ouais. Non, la mort, c'est la fin d'une chose. N'importe quelle fin. Le divorce, c'est une forme de mort. La fin d'une amitié, c'est une forme de mort. La fin d'un business, c'est une forme de mort. La fin d'une association, c'est une forme de mort. Alors pourquoi toi, tu attends la mort pour sentir... Tu attends l'abattoir pour sentir la mort. Tu anticipes. Tu sens que tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es assise et que la branche, elle va craquer. Tu vas dire, elle craquera pas, c'est une marocaine, elle craquera pas. Elle va craquer. Tu crois qu'elle est comme ta mère? Elle n'est pas ta mère. Ta mère, elle est obligée de t'assumer parce que tu étais son fils. Mais elle, c'est ta femme. Qui a dit qu'elle est obligée? C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Alors, remets du scotch sur la branche. Oui, c'est ta branche. Tu as appuyé sur une branche. Pareil pour ton mari. Allez. Tu sais que tu as à peu près 2 milliards 500 millions de concurrentes sur la Terre. Et les liens du mariage? Oui, d'accord, oui, mais ça, c'est pas un bracelet de sécurité, c'est une alliance. Il faut travailler, il faut investir. Ici, c'est ça. Il a dit, Rabbi Shimon, c'est quoi? C'est Rouet Anulad. Rabbi Eliezer Omer, Lev Tov. Rabbi Eliezer, il a dit, c'est quoi le chemin dans lequel un homme doit, le chemin droit dans lequel un homme doit coller? C'est quoi? C'est Lev Tov. On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi Lev Tov? Le bon cœur. Non. Maintenant, ça ne marche plus. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon cœur? Tov, on a dit que c'est quelque chose qui est complet. Le cœur, c'est quoi? Alors, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, mais heureusement ou malheureusement, il faut revenir sur les choses. C'est quoi le cœur? Dans la Torah, le cœur, c'est pas l'endroit des sentiments. Ça, c'est Rimbaud, Lamartine. Ou là. C'est pas non plus le muscle qui produit des, la pompe qui envoie le sang. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le centre des choses. Il y a une notion comme ça en français. Le cœur de la ville. Le cœur du fruit. Donc maintenant, quelqu'un à l'intérieur de lui-même, il a un cœur. C'est-à-dire qu'il a un centre. Le centre, il va agir exactement comme un axe. Quand vous avez un axe, d'accord? Et que tout autour, les roues dentées tournent. Maintenant, cette roue, elle entraîne celle-là, elle entraîne celle-là. Mais à partir de quoi? À partir de l'axe. Maintenant, la Torah, elle te dit, il faut que l'axe, c'est-à-dire ce qui est au milieu, soit tov. Tov, ça veut dire qu'il doit être complet. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'axe? Qu'est-ce que c'est le lev? Le cœur, dans la Torah, on voit, c'est la capacité d'analyse. C'est la sensibilité. C'est l'équilibre. En fin de compte, c'est tous les éléments qui constituent ton intériorité. Tous les éléments de ton intériorité doivent être complets. Maintenant, toi, tu es une personne complète. Il faut qu'il se repose. Hein. Toi, tu es une personne complète. Donc, comme tu es une personne complète, d'accord, il dit, il faut l'abattre, je ne sais pas, il faut infuser, qu'est-ce que... Donc, comme toi, tu es une personne complète, ouais, pourquoi? Parce que tu as left of. Il dit, Rabbi, quel satan. Vous voulez que je monte? Je ne sais pas comment ça se passe chez les enfants de 4 ans. Alors, ici c'est marqué, regardez ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Roé ani et divré Eliezer ben Arach. Je retiens les paroles de Rabbi Eliezer ben Arach. Chez Bichlal devarav divrechem. Parce qu'à l'intérieur de ces paroles, il y a vos paroles. Mais là, nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que dans Lev Tov, dans le bon cœur, il y a aussi Ain Tova, le bon œil, et aussi Chaver Tov, le bon ami, et aussi Shachen Tov, le bon voisin, et aussi Roet Anolad. Mais quel rapport maintenant? Pourquoi il y a tout à l'intérieur de Lev Tov? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors le Rambam, Maïmonide, il explique cette Mishnah, et nous, à partir de cette explication, on va essayer de comprendre, si Dieu veut, quelques milliards de choses. Il dit, qu'est-ce que c'est Lev Tov? Nous, on a compris, une personne à l'intérieur d'elle-même, elle se construit, elle se développe. Rav Dessler, il a un mot pour ça qui est incroyable. Il dit, Alev ou Ametziout. Le cœur, c'est ça la réalité. Le cœur, c'est ça la réalité. Nous, malheureusement, on vit dans un monde qui est tellement débile que non seulement que on ne connaît pas notre intériorité, mais en plus que nos références, elles-mêmes, sont virtuelles. C'est-à-dire, nous, on croit quoi? On croit. À l'intérieur, vous savez, dans la vie, il y a la théorie. Et puis, il y a la pratique. La Torah dit le contraire. L'intérieur, c'est ça la réalité. L'extérieur, c'est virtuel. Pourquoi? Parce que l'extérieur, ça n'est que la projection de ce que tu as à l'intérieur. Par exemple, vous prenez un projecteur, vous mettez un diapo, vous projetez une image, ou même une cassette vidéo, donc il y a un western. Donc vous voyez, vous projetez le western sur le mur, sur l'écran. Alors on voit les chevaux qui courent, alors la grand-mère marocaine, « Matelot, il va aller !» Tu dis, « Mamie, il n'y a rien de grave. Rien du tout, mamie, c'est rien qu'un film. Tout va très bien, c'est rien qu'un film, c'est la cassette. » Alors maintenant, elle maudit la cassette. Ouais. Non, il n'y a rien, c'est une cassette. Maintenant, écoutez bien. La cassette, elle est réelle, mais l'image, elle est virtuelle. La preuve, vous éteignez, il n'y a plus rien. Tu dis, oui, il est passé le western. Enfin, il est parti. Oui, qu'est-ce qui se passe? Exactement pareil. Toi, tu crois, à l'intérieur de toi, tu as des sentiments, tu as des principes, tu as des ambitions, tu as des volontés. Ça, c'est virtuel. Mais ce que tu vis, ce que tu vois, ça, c'est réel. En vérité, c'est le contraire. Alev ou Ametziout. Ce que tu es, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit, c'est ce que tu es. Maintenant, toi, tu sais ce que tu es. Toi, tu sais ce que tu es. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ça ta réalité. Maintenant, si toi, tu prends en référence l'extérieur, t'es en très grand danger. Premièrement, parce que tu peux tomber dans le piège du miroir, qui donne toujours un reflet inversé. Vous avez remarqué que le miroir donne un reflet inversé. Si tu regardes dans le miroir des yeux des autres, alors là, ça devient carrément déstabilisant, parce que chaque personne a un miroir différent, donc ça fait un miroir déformant. Les gens qui m'aiment, les gens qui m'aiment pas, les gens qui m'aident, les gens qui m'aident pas. Tu veux un miroir? Ça s'appelle, en français, se regarder dans la glace. Tu t'acceptes, tu tu évolues, tu grandis. Mais tu te regardes dans la glace, tu n'as plus de problème. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Juste cette image-là, ils la fuient. Ils cassent tous les miroirs. Alors après, ils ont des chocs. Ils ne se comprennent pas, ils ne savent pas où ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi la vie ne colle pas, pourquoi ça ne colle pas, pourquoi ce n'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Mais tu t'es trompé de référence. C'est l'intérieur, la Metsiout. La réalité, c'est l'intérieur. Allez, vois Metsiout. Donc maintenant, toi, tu sais, tu dis la vérité ou tu mens? Toi, tu le sais, oui, oui ou non? Tu dis, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que, on croit que, on pense que. Non, toi, toi. Comme à l'école, vous savez comment ça se passe à l'école? Tu dis, un enfant, pourquoi tu ne travailles pas? Il dit, ouais, je suis dans une classe difficile. Je t'ai demandé pourquoi tu ne travailles pas, tu me dis, je suis dans une classe difficile. Ouais, le délégué de la classe, il pense que je te parle, toi. Ouais, mais on dit que je te parle personnellement, tu me réponds impersonnel. Pourrais-tu répondre à la question? Toi, est-ce que tu travailles? Oui, il me travaille les nerfs, lui. Oui, d'accord. Est-ce que tu travailles? Peut-être c'est à côté, peut-être. Hein? Oui, non? Ah, c'est la paroi du mur? Le golem. Non, alors... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bon, ça fait rien, ça nous permet de nous concentrer un peu plus. Alors, où j'étais, moi? Ah oui. La référence, elle doit être intérieure. C'est-à-dire que c'est ça ta réalité profonde. C'est ça qui doit être ta référence. Maintenant, quand toi, tu prends comme référence intérieure, quand tu prends ton intériorité comme référence, donc maintenant, tu dois savoir, tu es concentré, tu n'es pas concentré. Bon, j'ai des bonnes raisons, c'est difficile, j'ai du mal. Si tu es concentré ou tu n'es pas concentré. Ce que tu dis, tu le penses ou tu ne le penses pas? Ouais, bah écoute, j'espère y arriver, c'est difficile d'y être et de paraître. Non, tu le penses ou tu ne le penses pas, c'est pas grave. Dis-moi, je ne le pense pas. J'espère le penser. Dis-moi, je ne le pense pas. Au présent, tu es quoi au présent? Maintenant, de le dire en public, tu n'es pas obligé. De monter sur la chaire là-bas et faire une... Tu n'es pas non plus. Mais à l'intérieur de toi-même, tu dois être clair. Maintenant, toi, tu dois construire ton intériorité. Pourquoi? Parce que étant donné que ta réalité, c'est ton intériorité, et que tout ce que tu vas projeter, c'est ce que tu as à l'intérieur, donc si tu as une intériorité tordue, ce que tu vas projeter, c'est tordu. Si tu as une intériorité incomplète, ce que tu vas projeter, c'est incomplet. Si tu as une intériorité qui n'est pas structurée, ce que tu vas projeter, c'est pas structuré. Comme quand vous écoutez parler quelqu'un. Tu dis, mais je m'excuse de te couper. Oui, oui, tu dis n'importe quoi. Hein? Non, tu dis n'importe quoi, là. Pourquoi? Je sais pas, tu me dis ça, après tu me dis ça, après tu me dis ça, après tu changes d'avis, après tu reviens, après tu me racontes l'histoire de ta mère, après tu me dis, c'est comme des gens, par exemple tu parles à quelqu'un, et tu dis, oh, il faut que je te dise un truc. Je dis, pourquoi tu me dis ça maintenant? Je sais pas, ça me passait par la tête. C'est pas grave, ça te passe par la tête, mais nous maintenant on est en train de parler d'autre chose. Mais j'arrive pas à me retenir. C'est quoi? C'est tellement pas habitué à avoir un truc dans la tête, que quand t'as un truc dans la tête, il faut que ça sorte. C'est pas grave. Tu prends un papier, tu notes, t'as peur d'oublier. Si tu l'oublies, c'est que c'est pas important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arriver à savoir, dans ta tête à toi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va modeler toute ta réalité. Vous avez bien compris maintenant que quelqu'un qui a arrêté, par exemple, l'école très tôt, et qui a brisé un peu les structures dans sa tête, et qui n'a pas la capacité d'organiser les choses, donc automatiquement, il aura un vécu qui s'est un peu déstructuré. Ou alors, il a sa structure à lui. Alors à ce moment-là, on va dire qu'il a du caractère. Maintenant, pour collecter sa structure, ça n'a pas été évident. Ouais, parce que toi, par exemple, toi, tu t'expliques et après tu fais les choses. Non, lui, il fait, après il t'explique. Si tu demandes. Si tu demandes pas, il t'explique pas. Tu dis, mais comment je vais faire avec un vivre avec un fou? Il est pas fou. C'est un artiste. Mais c'est un malade. Ouais, c'est un. Il se sent pas obligé de s'arranger avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, lui, il se sent pas obligé de s'arranger avec lui-même. Vous avez pas remarqué que les gens qui arrivent à s'expliquer, c'est des gens qui arrivent à s'expliquer. Si eux, ils arrivent à s'expliquer, alors ils arrivent à s'expliquer. Mais l'autre, il a pas le souci d'être expliqué, puisque lui-même, il a pas de souci de s'expliquer à lui-même. La preuve, quand tu lui demandes pourquoi tu avais ça, il dit bah, je sais pas. Bon, mais c'est bien de faire ça. Oh, j'en sais rien. J'ai pas réfléchi. T'as pas réfléchi. Tu m'as planté un milliard, t'as pas réfléchi. Bah ouais. Tu m'as rentré dedans. Tu sais, moi, j'aime bien lire le journal quand je vois 130. Tu peux rester là, s'il te plaît, je vais chercher un fusil. Bouge pas. Souris. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toi, quand tu as cette référence intérieure qui est objective, ouais, alors tu as un souci d'objectivité aussi par rapport à l'autre. Parce que l'autre, c'est quoi? C'est juste un deuxième moi, un deuxième toi. Mais si déjà le premier toi, tu l'as pas rencontré? Parce que toi, tu as un reflet. Reflet du regard, reflet de l'extérieur, reflet de l'influence, reflet de l'ambiance, reflet du temps. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent le matin, il pleut. Ah ben, j'ai pas le moral.
Bah, il pleut, et la vie continue. Ah non, mais moi, quand il pleut, je reste au lit, hein, mais franchement. Il reste devant la fenêtre comme ça, il a une longue barre de 4 mètres, il ouvre le rideau, il fait oh, oh, il... Bon, mais il pleut, mais la vie continue. Il... Ah, tu me fais la tête? Ah non, c'est comme ça. La vie continue. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas le reflet dans la glace. Je vous ai déjà dit la différence qu'il y a entre une statue et un miroir. Vous vous rappelez ou non? Bah, faut réviser, mais alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas un spectacle? Bon, il y en a qui doutent. Alors, quand vous faites une statue, vous sculptez une statue. Par exemple, vous sculptez un oiseau. Ben, c'est un oiseau. Vous revenez, c'est encore un oiseau. Des fois, vous retournez comme ça. Hop, vous essayez de le prendre. C'est une statue d'oiseau en bronze. C'est un oiseau. Il reste un oiseau puisque c'est une statue d'oiseau. Jusque-là, vous suivez. Par contre, vous prenez un miroir. Il y a une image sur le miroir. Eh bien, quand vous promenez le miroir, l'image, elle change. Mais c'est grave. Quand tu avances avec un miroir, regarde l'image. Oh purée, ça change. Après, tu fais l'expérience avec quelqu'un, s'il te plaît, tu peux déplacer le miroir. L'image, elle change. Mais dans quelle différence, toi, tu es une statue ou un miroir? Si tu es un miroir, tu es le reflet. Donc toute la journée, tu changes. Avec celui-là, tu fais cette tronche. Au travail, tu fais cette tronche. Avec la, quand t'es énervé, quand on t'énerve. Quand t'es bien, quand t'es mal. Hé, hey, t'es un miroir. Tu es une statue de bronze. Tu penses ce que tu penses. Tu dis ce que tu dis. Tu ressens ce que tu ressens. Tu fais ce que tu fais. T'es une statue de bronze. Non, t'es un miroir. Ah, tu me dis ça? Ah ben, tu sais quoi? Ça m'a empêché de réfléchir pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que tu m'as pas rappelé. Tu sais quoi? Imagine, je suis mort maintenant. Mais ta vie, elle continue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as pas rappelé? Ah non, je suis très mal. Tu sais quoi? Je suis troublé. Jamais j'aurais cru ça de toi. Mais t'as rien à faire de ta vie, toi. T'es un miroir. Un miroir. Vous prenez une banane, vous la mettez devant le miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Le reflet de quoi? D'une banane. Vous mettez un gâteau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un gâteau. Vous mettez un excrément de chameau. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Oh, c'est dégueulasse. Donc si toi tu es un miroir, et c'est quoi un miroir? Un miroir, c'est la capacité de la molécule d'argent qui est derrière la vitre d'accaparer pendant quelques microsecondes les associations de photons qui sont reflétées par l'objet qui sont en face d'eux. C'est ça un miroir, non? Non? Pas obligé de dire tout le temps des lourdeurs, on peut dire aussi... Ouais. Donc toi, qui es-tu? Tu es un absorbeur de lumière. Positive et négative. Non! Tu dois être toi-même. Donc si tu prends ta référence intérieure, maintenant moi j'ai décidé de faire ça, donc je le fais. Ah, il y a des obstacles, oui, mais moi j'ai décidé de le faire. Moi je dis ce que je pense. Alors je le pense, mais je sais que je le pense. Donc avant de dire, je le pense. Donc moi j'ai décidé que je garderai le moral. Je garde le moral. Allô, tu veux me casser le moral? Garde le moral. Vous voyez quelqu'un qui vous détruit le moral. Avant d'aller, vous le voyez déjà de loin. Qu'est-ce que vous faites? Faites comme ça fait. Je vais bien, je suis bien, je suis fort, je suis super, je vais l'éclater, je suis bien. Après l'autre, il vient. Oh ouais, tu veux. Bonjour. Ça va toi? Viens, je t'embrasse. Mais je vais te tuer. Viens, je t'embrasse. Viens. Tu le pourris de bonheur. Tu l'éteins. Tu fais comme ça. Ah, tu te dis, oh, je suis bien avec toi. Oh, ça m'a fait plaisir. Quand tu m'as jeté, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que tu as envoyé une impulsion de 50 millions de kilowatts d'énergie positive contre ces 230 kilowatts de négation. Baha, émetteur, baha. Perdu dans la jungle vietnamienne. Tu lui as mis du napalm de bonheur, comme ça. Tra! Mais pour le mettre, il faut l'avoir. Mais si t'es un miroir, t'es un absorbeur, t'es une éponge à pourriture. Donc là où tu vas, tu sors, tu prends un peu de là, un peu de là. Quand tu rentres chez toi, tu dis, bon, ben, je vais mourir. Il y a tellement de souffrance, tellement d'horreur, tellement de difficultés, tellement. Tu vis, t'es vivant. Lève-toi. Ton intériorité, elle est construite. Alors, regardez ce qu'il dit, le Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire Leftov? Shezot imala tikkun amidot. Ça s'appelle le niveau de perfectionnement des qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur de soi, on a dit, on a une essence. À partir de cette essence, on a un système d'application de l'essence. Ça s'appelle les midot, c'est les qualités. Maintenant, tes qualités, elles sont en regard de ton essence, elles se ressemblent.
Comme toi, tu es complet, tu as aussi des qualités complètes. Il y a des gens, ils ont des qualités, mais incomplètes. Vous comprenez ou non? Par exemple, ils parlent, mais ils mentent. Maintenant, ils s'investissent, mais ils sont calculateurs. Ils sont généreux, mais ils ont une attente. Donc, tu vois que leur générosité, elle n'est pas complète. Maintenant, étant donné qu'ils ne sont pas complets à l'intérieur, donc ce qu'ils ils fabriquent, c'est aussi incomplet. Mais ça, c'est encore à l'intérieur, c'est les midotes. Il dit, puisque toi, tu construis tes midotes en fonction de ton intériorité, alors il dit, les fiches et dérotaves chez la dame nevi hot minalev, parce que les pensées de quelqu'un, elles viennent de son cœur. Donc maintenant, si son cœur est entier, alors ses pensées sont entières. On n'est pas encore dans la parole. Maintenant, un homme lui-même, il doit s'écouter penser. Il doit dire, mais comment je peux penser un truc pareil? Mais je suis un tordu. Je fais des trucs, ouais, j'ai pas confiance, il m'embrouille. Pourquoi t'es pas Nia? Pourquoi t'es pas Tam? Pourquoi t'es pas pur? Pourquoi tu vois les choses bizarres? Tu vois les choses bizarres parce que t'es bizarre. Maintenant, si l'autre te dit que t'es bizarre, tu sais, c'est une agression, c'est du harcèlement. Mais si toi, tu te rends compte que t'es bizarre, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est comme ça que tu vas t'arranger. Donc la personne qui a pris en référence son être intérieur et qui sait que ce qu'il produit, c'est qu'il y a une projection de ce qu'il contient à l'intérieur, donc lui, il regarde ses pensées, il regarde ses paroles, parce qu'elles sont le produit. Elles sont le produit. Tu vas chez un comment ça s'appelle, les marchands de... Ouais, bon, les bijoutiers, je sais pas quoi. Tu prends une montre. Écoutez, cette montre, Suisse, mouvement, babadada, 3 800 euros. Oh lui, il est ouf, lui. J'étais chez Tati, 6 euros les 4 kilos. Bon, j'en ai pris deux parce que bon, ça fait un peu embarrassant d'avoir 4 kilos de montre. Mais tu dis oui, mais vous avez vu la finition? Vous avez vu la qualité? Vous savez qu'elle est hermétique. C'est au courant que vous pouvez la plonger. D'accord? Elle était fabriquée sous vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bactérie. C'est fait dans un laboratoire. Donc elle est garantie 172 ans. Et l'autre, elle est garantie jusqu'à quand? Ça dépend quand est-ce que tu l'as acheté. Ça dépend quand est-ce qu'il a allumé la pile. Des fois, tu sors du magasin. Oh, elle ne marche plus! C'est marqué dessus. Ni repris, ni remboursé. Pourquoi? L'autre, il n'a pas peur. Il te l'a garanti à vie. C'est pas le même prix. Donc, le produit, oui, c'est un signifiant du producteur. Tu es un producteur. Regarde tes produits. Ils sont un signifiant du producteur. Tu dis, c'est marrant, j'arrive jamais à terminer ce que je commence. C'est un signifiant du producteur. Donc, si tu n'es pas complet, tu ne peux pas terminer ce que tu commences, puisque toi-même, tu n'es pas terminé. Comment tu vas faire quelque chose complètement? Tu dis, moi, c'est toujours dérangé chez moi. Mais toi-même, es-tu pas un peu dérangé? C'est vrai, j'ai une tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu produis, c'est la projection de ce que tu es. Donc, à partir de là, tu dois, il dit, Ubizman chez Libotov, Kol midotav yesharot. À partir du moment où la personne est tov, ça veut dire quoi? On a compris maintenant, elle est complète. Donc kol midotav yesharot, toutes ses qualités sont droites. Ou derotav nechonot, et ses pensées sont vraies. Maintenant, le mot nachon en hébreu, il est un peu bizarre. Le mot nachon, il vient de la racine kivun. Oui. Quand c'est mechuvan, c'est comme nachon. C'est quoi mechuvan? Mechuvan. Kavana, c'est quoi Kavana? Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. La Kavana. Alors, il y a deux sens. La Kavana, ça veut dire l'intention que tu mets dans quelque chose, la concentration que tu mets dans la prière. Mais la Kavana, ça veut dire aussi l'intention dans laquelle tu le fais. La Kavana, ça veut dire aussi la signification des choses. Quelle est la Kavana de cette attitude? Quelle est l'intention? Quelle est la signification? Comme en français, le mot sens, il a deux sens. Il veut dire direction et il veut dire signification. Alors, je vous ai donné la règle déjà, mais essayez de la vivre. Parce que moi, de la dire, je peux la répéter un million de fois, mais c'est de la vivre, c'est mieux. C'est que on voit souvent que les gens qui donnent un sens à leur vie, alors leur vie prend un sens. Quand tu sais pourquoi tu le penses, quand tu sais pourquoi tu le vis, quand tu sais pourquoi tu le fais, ta vie, elle a un sens. Alors, quand ta vie, elle a un sens, ta vie, elle prend un sens. Tu as une direction. Mais si quelqu'un, sa vie n'a pas de sens, pourquoi tu fais ça? Je bois, à quoi ça sert? Oh, tu vois, ça mène nulle part, je bouffe, je meurs. Là, sa vie n'a pas de sens. Alors, puisque sa vie n'a pas de sens, sa vie, elle prend pas de direction. C'est marqué dans Pirkei Avot. Dame, allez à Chiv, l'Apikoros. On a lu dans le deuxième Pérec. Sache quoi répondre à l'Apikoros. C'est quoi l'Apikoros? C'est pas un chorus heureux. Non. c'est un rebelle, un juif rebelle. Il y a des gens comme ça. Oui, la Torah, c'est les rabbins qui l'ont inventé, c'est des bêtises. Tout ça, c'est pour exploiter le peuple, c'est l'opium du peuple. Bon, c'est la picoreuse. Ils sont souvent heureux, aujourd'hui ils sont gays, donc d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ils rejettent la Torah. On dit, dame, allez à Chiv, Léa Picoros, sache qu'est-ce que tu dois répondre. Madame, alors il vient, celui-là, il a pas la kippa, il mange du porc. Il te dit, ouais, la religion, tac, j'ai une question. Toi, tu dis, oui, il est pas religieux, il comprend rien, il est contre la Torah, c'est un rachat. Je n'ai pas besoin de répondre à sa question. Non, la question est bonne. Mais non, l'utilisation de la question est mauvaise. Parce que lui, il utilise la question pour se permettre de manger du porc. Il dit, comme tu ne peux pas répondre à ma question, donc je mange du porc, ça n'a aucun rapport. C'est comme si quelqu'un, il tue quelqu'un, après, quand il est jugé par le tribunal lui dit, pourquoi avez-vous tué? Alors l'autre, il dit, bah, écoutez, c'était pas marqué que sur lui que c'était, qu'on devait pas le tuer. Ouais, non, quand tu portes un badge, ne me tuez pas. Donc, en connaissance de cause, je ne l'ai pas tué. Mais comme c'était pas marqué, je l'ai tué. Pourquoi on dit pas ça devant un juge? Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu dois avoir des réponses. On te dit, le monde, il a 6 000 ans d'après la Torah. Il a 500 millions d'années, 1 milliard d'années d'après la science. Alors, t'as une réponse? Non. Oh, tu vois, de toute façon... je sais pas moi, la médecine, comment ça se passait à l'époque de la Torah? Il y a des millions de questions. Est-ce que t'as des réponses ou non? Je n'ai pas de réponse, mais ça me dérange pas parce que j'ai la croyance, j'ai la émouna. Mais, quand ton fils va te poser la question, faudra que tu lui donnes une réponse. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je ne sais pas. Il va dire, mais enfin, tu crois dans quelque chose auquel tu ne comprends rien. Serais-tu passablement brel, papa? Effectivement, je ne me suis pas toujours intéressé, vu que je devais suivre les programmes de la télé de manière intensive. Donc, je n'ai pas pu étudier la Torah et savoir de quoi ça parlait. Alors, tu sais quoi? Avant que ton fils te pose la question... Pose-toi la question. Ça veut dire, c'est marqué, sache quoi répondre à l'apicoros, soit sache quoi répondre à l'hérétique, mais réponds d'abord à l'hérétique qui est en toi. Parce qu'on a tous des hérétiques en nous. C'est ça qu'on est rempli de tics d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire quoi à l'intérieur? Tu dis, bon, c'est vrai, des fois j'ai des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? En 39-45, t'as une réponse ou non? Oh, bah, c'est eux, t'as une réponse? Faut avoir une réponse. Pourquoi les tzadikim y souffrent? T'as une réponse? Oh! Pourquoi celui-là il est orphelin? T'as une réponse? Oh! Quand j'ai perdu mon père, t'as une réponse? Ah! Faut une réponse. Ah, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? La réincarnation, ça existe ou non? Ah, je sais pas. Comment ça se passe, la différence entre les juifs et les goïms? T'as une réponse? Ah, j'en sais rien. Bah alors, faut savoir. Oh, bah écoute, c'est compliqué, tu sais, j'ai pas le temps. Fais attention. Parce que les questions auxquelles tu ne réponds pas aujourd'hui, tu ne répondras pas non plus demain à tes enfants. Faut que t'aies des réponses. Quand t'es complet, ça veut dire que ta connaissance, elle est complète. Un juif, il est obligé d'être philosophe, psychologue, psychanalyste, businessman, pédiatre, médecin, avocat, il est obligé. Ah non, mais je suis spécialisé. Ça veut dire que, c'est ce que c'est un spécialiste? C'est quelqu'un qui est extrêmement fort dans un domaine et extrêmement nul dans tous les autres. Vous avez vu l'allusion? Non, tu dois avoir une connaissance universelle. Tu comprends le monde, tu comprends la vie. Ah non, oh, je ne suis pas au courant, écoutez, vraiment, je ne suis pas au courant. Un jour, vous allez parler avec des rabbanim, des vrais rabbanim, vous allez être surpris de la compréhension profonde qu'ils ont de la science et de l'actualité. J'ai jamais été à la fac. Wallo, la seule fac où il a été, c'est Rafac, c'est juste en face de Tlemcen. Ouais. Il n'a jamais été à la fac. Il connaît tout, il comprend tout. Tu dis, explique-moi un peu, tu l'expliques, il te dit, ah bah, tac, 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 tac. J'allais vous finir le raisonnement. Mais non, c'est bon, il te dit, ta, 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 ta. Tu viens de découvrir que l'intelligence n'est pas un privilège universitaire. Peut-être même le contraire. Enfin, bon, alors, donc, il s'est marqué ici que quelqu'un, il développe ses dérotes et ses midotes. Pour que les midotes, elles soient néronotes. C'est quoi néronotes? Et ça, sachez. Moi, j'avais une image quand j'avais 15 ans. L'horizon et toi. Toi, c'est un point. L'horizon, c'est des milliards de points. Entre toi et l'horizon, on peut tracer des milliards de droites. La vérité, c'est quoi? C'est quelques droites sur les milliards. Les gens, ils croient qu'ils ont compris un truc. Ils disent, ah, si j'ai compris, ça doit être la vérité.
Ça dépend comment compris tu l'écris, avec un M ou avec un N. On peut comprendre beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que toi, tu dois être capable d'envisager 1 milliard de solutions. Dans les 1 milliard de solutions, tu dois en éliminer 800 millions. Dans les 200 millions, tu dois en retenir encore 180 millions. Dans les 180 millions, tu dois encore, et après encore et encore, jusqu'à ce que tu arrives à 5 possibilités sur 1 milliard. Parce qu'entre toi et l'horizon, il y a des milliards de droites. Et il n'y en a pas beaucoup des vrais. Il faut connaître les vrais. Donc si tu n'as pas une capacité d'analyse, de distinction, d'effort, de remise en cause, d'objectivation de ton raisonnement, de démonstration, mais t'es baba, t'es dedans. Mais t'es dedans. Si tu vas me dire, écoute, c'est pas mon rôle, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas. Tu dois être aussi philosophe, et tu dois être aussi médecin, et tu dois être... Ça fait partie de la connaissance. Ah, mais tout le monde n'a pas les capacités. Dis-moi, si tu as réussi à t'acheter une voiture à crédit, tu as réussi à t'acheter une maison à crédit, tu as même réussi à t'acheter 19 appartements parce que tu es un malin de l'immobilier, tu n'as pas réussi à t'acheter un peu d'intelligence. Comment t'as acheté l'intelligence? Eh bien, j'ai payé petit à petit. Comment t'as acheté la maison petit à petit? Alors pourquoi l'intelligence, tu ne l'as pas acheté petit à petit? Réfléchis. Tu vas faire ton petit 2 pièces. Tu feras un 6 pièces. Mais toi, tu fais le contraire. Je réfléchis pas. Tu fais un effort de ne pas réfléchir. Puis tu dis, c'est marrant, j'ai l'impression que tout va au ralenti. Non, c'est ta vitesse naturelle, bra. Faut que ça tourne là-dedans. Vous comprenez ou non? C'est pas normal. Je vois les gens, tu leur dis quelque chose. Excuse-moi, je veux pas te choquer, mais c'est de ta vie qu'on parle là. C'est ta femme, c'est ton mari. Qu'est-ce que tu décides? Je comprends, devant la télé, on peut rester comme ça. Tu risques rien. Jamais la télé, elle va dire, alors, tu n'as pas compris? Qui c'est qui comprend pas? Le mec, il dit, j'ai pas compris. Comment? Il faut vraiment qu'il, le pauvre, il vaut mieux qu'il meure tout de suite. Celui qui comprend pas la télé, ça veut dire qu'il est en phase terminale. Au niveau de les cerveaux. Ils te mettent le titre avant le film, parce qu'il y a des brels, ils vont pas comprendre de quoi ils parlent. Alors ils veulent le titre avant. Comme ça, quand ils ont le titre, ils disent, ah, pff, au moins, je sais. Après, ils ont lu le commentaire sur Télérama. Comme ça, ils savent où ils vont. Ils ont vu les petites étoiles. 2 étoiles, 3 étoiles, 4. Ah, ouf, je sais que je vais pas rater ma soirée parce que, Baruch HaShem, il y a 4 étoiles. Au moins, je sais que cette soirée, si Dieu veut, je vais l'optimiser avec un bon film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, au contraire, elle veut avoir une pensée nechona. Je vous ai déjà dit une chose, mais il faut goûter l'erreur pour comprendre ça. Celui qui a goûté l'erreur, quand il apprend la Torah et que vraiment il conçoit combien c'est vrai, mais c'est un bain de bonheur. Mais de savoir que tu es dans le vrai. Vous rendez pas compte, parce que vous, c'est acquis pour vous. Bah, bon, Hachem, la Torah, on est juif, on sait que c'est vrai. Non! Va à la fac, va dans la rue, va dans la truc, parle avec des gens. Ils sont perdus. Toi, t'as une pensée claire. Tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu cherches. Les gens, ils savent pas. Tu dis, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai, ça tombe sous le sens. Mais quand j'ai pas pensé plus tôt, mais c'est évident. Mais ça fait 40 ans qu'ils cherchent. Toi, la vérité, elle t'est offerte à la bar mitzvah. T'as même une obligation de l'étudier. De savoir que la vérité, elle est dans ta tête, dans ton cœur, elle est devant toi. Mais c'est un bonheur, tu ne peux même pas imaginer. Pour celui qui cherche l'objectivité, celui qui ne cherche pas, il n'y a pas de problème. Tranquille, t'es spectateur moyen, il est pléonasme, d'accord. Mais celui qui cherche, si c'est comme ça, « Venimtsa » il dit « Samer Bechelko ». Il se trouve donc que celui qui a un leftov, ouais, il est « Samer Bechelko », il est heureux de sa part. On l'a déjà expliqué plusieurs fois maintenant, vous avez compris, c'est des couches. La couche intérieure, c'est l'essence. Elle doit être construite, complète, left of. Ensuite, tes midot, qui sont ton système d'exploitation de ton intériorité, doivent aussi être construits et complets. Après, ton corps, il doit être complet. Tu es en accord avec ton corps, tu aimes ton corps, tu vis avec ton corps, tu acceptes ton corps, tu développes ton corps, tu respectes ton corps, tu es encore complet. Donc, tu diffuses de l'entité sur de plus en plus. Maintenant, la réalité qui est devant toi. Alors, attention là. Ta réalité, elle te plaît ou non? Il dit, celui qui a leftov, il est sa mère Bechelko, il est heureux de sa part. Ça veut dire que ce que Dieu t'a destiné, ça te plaît ou ça te plaît pas? Quel genre de maladie tu as, toi? Il y a des gens comme ça. Ah, si j'avais su, ça aurait été différent, ça aurait été mieux différemment. Non. Un bon juif, c'est quelqu'un qui comprend que la réalité que Dieu lui a donnée, elle est sur mesure. En parlant de rêver, tu as le droit de rêver. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est d'exploiter le potentiel. Le rêve, c'est pas d'imaginer que tu auras un autre potentiel. C'est ton potentiel, tu dois l'exploiter. C'est ta réalité, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ton mari, tu te débrouilles avec. Tu dis non, je suis sûr que la vérité est ailleurs. C'est une très grave maladie, ça s'appelle midi à 14h, je sais pas si vous connaissez. Non. Toi, tu colles avec ta réalité. Dieu il m'a donné une réalité comme ça. Mon corps, il est comme il est. Mes amis sont comme ils sont. Mon origine, elle est comme elle est. Eh ben, je suis né là-bas. Voilà, je suis né là-bas. Oui, mais j'aurais préféré naître en Suède. Tu n'es pas suédois. Être américain, tu n'es pas loin de l'Amérique. Un marocain, c'est pas loin. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ta réalité, tu l'acceptes et tu fais un avec. On a déjà dit plusieurs fois, sa mère, Bechelko, Mipne, Chezechelko. Être content de sa part, c'est se contenter. C'est, vous voyez, dans le mot contenter, il y a content. Ouais. Contenter, c'est pas dire, eh ben, écoutez, j'ai rien. Je souffre. Je crève. Mais c'est pas grave. La Torah ne t'a pas demandé d'être mazo. La Torah t'a demandé d'être en accord, de cohérence avec la réalité que Dieu te propose. C'est ça, sa mère Bechelko. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est ça la définition du bonheur. Les gens, tu vas dire, oh, je cherche le bonheur. Ah, vous pensez qu'avec la Torah, j'aurai le bonheur. Si tu viens à la bonheur. Ah, Botaï, le bonheur n'existe pas. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, je vous le répète. Je... Mais quand même, c'est... on voit dans les yeux qu'ils ont atteint le bonheur. On espère avoir le bonheur. Mais non, ça n'existe pas le bonheur. Je vous ai déjà dit que le bonheur, c'est un rapport de maturité que tu entretiens avec l'existence. Et le malheur, c'est un rapport d'immaturité que tu entretiens avec l'existence. Mais non, si tu as tout pour être heureux, mais tu as une relation immature, donc tu ne vis pas ton bonheur. Tu dis, mais comment une fille belle comme ça? Mais comment un beau couple comme ça, ils peuvent divorcer? Mais comment des gens riches comme ça, ils peuvent être malheureux? Parce qu'ils ne vivent pas avec maturité la réalité qui est la leur. Donc quand tu acceptes ta réalité et que tu l'assumes et tu es cohérent avec elle, tu es heureux. Mais quand tu es incohérent avec ta réalité, tu es malheureux, même si tu as tout pour être heureux. Et l'extraordinaire aussi du contraire, qu'il y a des gens qui ont tout pour être malheureux, et ils sont heureux. Tu dis, mais comment on peut être heureux? Comment on peut être heureux? Comment tu peux être heureux? Je suis heureux. C'est ma réalité, c'est la réalité que Dieu a choisie pour moi, je l'accepte et je vis avec. Et si tu vas me dire, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas le genre à baisser la tête, je suis pas un mouton. D'accord. Eh bien, tu n'es pas un mouton et en plus, tu es malheureux. Parce que ta réalité, elle ne va pas changer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta réalité, c'est ta réalité. Maintenant, tu la refuses. C'est ta réalité et en plus, tu la refuses. C'est-à-dire que maintenant, elle est deux fois plus lourde. Il y a des gens comme ça qui disent, je n'aime pas cette femme. Je ne l'aime pas. Je suis marié trop vite. Ce n'était pas mon genre. Elle m'a fait le coup de la panne. Je ne suis pas d'accord. Écoute, ça fait 22 ans que tu es là. Alors, il faudrait que tu commences à l'accepter. Non, au fond de moi, je ne l'aime pas. Mais l'amour, c'est une communion des bonnes volontés. La volonté, c'est un véhicule d'existence. Donc quand tu exprimes ta volonté, tu existes. Quand elle exprime sa volonté, elle existe. Quand vous communiez vos deux volontés, vous aimez. Donc tant que tu ne seras pas cohérent avec la volonté de l'autre, tu ne pourras pas parler d'amour. Toi, tu parles de consommation, tu n'es pas obligé d'aimer la glace en elle-même pour la manger. Quand tu manges une glace, tu aimes ce qu'elle t'apporte, mais tu n'aimes pas la glace elle-même. Parce que si tu aimais la glace, tu ne la mangerais pas. Mais comme aujourd'hui, on vit dans une société de consommation, les gens mangent tout ce qu'ils aiment. Donc quand un garçon te dit « je t'aime », mets de la sauce. Tu es cuite. Dis-lui tout de suite, bête à Avon, pardon. Je me comprends. Lo aleinu. Sa mère, Bechelko, vous avez compris maintenant, ça veut dire que la réalité... En vérité, c'est une excroissance de toi. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit que ton essence, elle est entièrement à toi, elle est personnelle, elle est construite. Tes midotes, qui sont l'extension, sont aussi construites, t'appartiennent, tu fais corps avec. Ton corps aussi fait partie de toi, maintenant tu fais un, il est construit.
Mais non, ta réalité, elle fait partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as en face de toi, le décor, le travail, l'endroit où tu habites, ton appartement, les gens que tu côtoies, tout ce que tu côtoies, c'est lié à toi. Ça veut dire que ça te représente, tu vis avec, ça t'appartient. Maintenant, toi, sois cohérent avec. Pourquoi? Parce que si tu es cohérent, tu peux optimiser la réalité. Mais si tu es incohérent, ça veut dire que tu refuses la réalité. Alors même le bonheur qui est enfoui à l'intérieur de la réalité, tu ne peux pas l'optimiser. Donc, Samer Bechelko, on a compris, ça ne veut pas dire content. Je suis content, je suis vraiment content. Non, toi, tu confonds kavod et vodka. Ce n'est pas du tout les mêmes mots. Oui. Non. Content, ça veut dire que tu es en accord, tu es en cohérence. Alors maintenant, quand tu es en cohérence, quand tu acceptes la réalité, alors la réalité, elle te nourrit. Vous savez que la vie, elle est généreuse, mais la vie, elle est généreuse avec les gens qui sont généreux. Maintenant, quand tu acceptes telle qu'elle est, elle te donne son potentiel, elle te donne son miel. Mais quand tu la refuses, elle te donne rien. Donc ça s'appelle quoi? Que tu es Samer Bechelko, Samear. On a toujours dit Samear, c'est joie. Et Simcha, c'est toujours Shlemout. Donc tu fais un avec ta réalité. Pourquoi? Parce que tu as juste propagé le modèle. Ton modèle intérieur qui est un modèle complet, c'est aussi le modèle de ce que tu entretiens avec ta réalité. Donc ta réalité, elle est complète. C'est pour ça que la Gemara, elle dit « Keshem shi mevarichim ala tova mevarichim ala ra'a ». De la même manière qu'on doit dire « Baruch Hashem » sur le bien, on doit dire « Baruch Hashem » sur le mal. Tu vas dire « Mais enfin, mais c'est fou, mais je peux pas dire « Baruch Hashem », au contraire. » Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Pour le bien, ils disent « Baruch Hashem ». Et pour le mal, ils disent quoi? « Hashem ishmor ». Maintenant, il y a un problème maintenant. Quand tu dis « Baruch Hashem », ça veut dire « Je sais que ça vient de Dieu, je l'accepte, je fonctionne avec ». Quand tu dis « Non ». Hashem Ishmor, mais tu dis, mais ça sert à rien de dire Hashem Ishmor. C'est ce que c'est Hashem Ishmor. Hashem Ishmor, ça veut dire, comment dire en anglais, Simsilenu. Parlez pas l'anglais, ouais. Hashem Ishmor, ça veut dire que Dieu nous protège. Mais enfin, tu es déjà dans la galère. Donc ça veut rien dire que Dieu nous protège. C'est comme si un type, il tombe du bateau, en plein milieu de l'Atlantique, et il dit Hashem Ishmor. Mais tu es dans l'eau. Tu es à 5000 km de la côte, avec 2800 mètres de profondeur, et des requins qui aiment ton parfum. Donc on peut dire que tu es vraiment dans la mer. D'accord? Alors, ça sert à rien de dire Hashem Ishmor. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Baruch Hashem. C'est quoi Baruch Hashem? Ça veut dire j'adhère, j'accepte, j'assume, je travaille. Je trouve le bien qu'il y a dedans et je règle le problème. C'est tout. Mais si tu refuses la situation, tu ne peux pas l'optimiser. Donc tu rates la situation. Donc ta tronche de sceptique, elle te fait rater la réalité. Et les gens, ils ratent des réalités. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que je croyais, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que... Et la vie, elle passe. 32, 38, 47, 59, 61. Après tu dis, est-ce que c'est important au fond? Le contraire. Samer Bechelko, je suis leftov avec ma réalité. Je vous ai déjà dit, c'est pour ça qu'on met une mezouza sur la porte. Pourquoi on met une mezouza sur la porte? Vous avez jamais demandé? Quoi ça sert? Pour savoir c'est quoi une maison juive? Mais non. Une mezouza, c'est pour dire cette maison est soumise à Dieu. Comme ce corps est soumis à Dieu. Pourquoi on met des tefillines sur le... Parce que ce corps est soumis à Dieu. Pourquoi on met des tefillines sur la tête? Cette tête est soumise à Dieu. Mais non. Ton corps et ta tête, ça fait partie de toi. Et ben ta maison aussi, c'est partie de toi. Donc toi, ta maison te représente. Donc tu peux faire rentrer n'importe quoi dans ta maison parce que ta maison, elle est liée à toi. Maintenant, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chaque molécule, chaque particule de matière, elle a une destination qui est prédestinée depuis la création du monde. D'accord? À Rosh Hashanah, on redistribue les particules. Maintenant, c'est quoi la somme des particules qui vont être attribuées à ton épanouissement personnel? Comment ça s'appelle? La parnassa. Maintenant, la parnassa, elle est déjà attribuée. Eh bien, écoute-moi bien. Maintenant, la clé de la bracha, c'est quoi? C'est d'accepter la réalité. Maintenant, quand tu acceptes la réalité, les particules de parnassa qui sont à l'intérieur de ta réalité, elles se dévoilent pour venir chez toi. Mais si tu n'ouvres pas le courrier, si tu ne vas pas chercher les paquets à la poste, ce qu'on appelle la ishtadlout, l'effort que tu fournis, eh bien les particules de Parnassa qui te sont destinées, ça veut dire qu'ils n'iront à personne d'autre, elles sont perdues. Donc Samer Bechelko, c'est la clé de la bracha. C'est ça la clé de la bénédiction. Les gens ils se demandent, oh, j'espère que j'aurai la bracha. Mais la bracha, c'est ouvre tes yeux,
remonte tes manches et ouvre tes poches. Et c'est tout. Ah, c'est ça? Mais je croyais que c'est un truc magique, un truc spécial. J'ai allumé la veilleuse de Baba Baha et j'ai fait ça. Mais non, t'es un travailleur. La bracha, lève-toi. Non, je reste au lit, je dors. Et si Dieu veut, il y aura des paquets de dollars à côté de mon lit quand je vais me réveiller. Dibli Neder. Pourquoi? T'es un travailleur, lève-toi. T'as le Talmid Chacham, étudie. T'es un type intelligent, réfléchis. T'es un idiot, agis. Chut. Chacun à son niveau, il a un potentiel. C'est à lui d'éclairer ce potentiel pour que ce potentiel se réalise. Comment s'appelle ça? Samer Bechelko. Maintenant, vous avez bien compris que ce potentiel-là qui va s'éclairer, il démarre d'en haut. Vous vous rappelez ou non? Le cœur. On a dit que tout provient du cœur. Donc si le cœur, imagine le cœur, c'est une ampoule. Mais la lumière de l'ampoule, elle va éclairer la caverne. Il y a des gens comme ça, ils sont dans une caverne remplie de diamants, ils savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ampoule. Il y a des gens comme ça. Oh, viens, viens. Oh, blablabla. Après, tu dis, tiens, mais il a. Appuie. Il appuie sur l'interrupteur, il dit. Oh. Mais c'est extraordinaire. Je savais pas que j'avais ça dans ma caverne. La lumière, c'est l'intériorité. Maintenant, quand toi, tu es complet dans ton cœur, tu as une vision complète. Donc, la lumière qui sort de ton cœur, elle est complète, donc elle éclaire ta vie. Mais si toi, tu as obscurci ta lumière avec tes complexes, tes malaises, tes angoisses, tes incompréhensions, les différences et la difficulté, les limites, les remises en cause, le regard de l'autre, tu as tellement de filtres que la lumière à l'extérieur, elle est toute petite. Alors tu dis, écoutez, je ne vois rien, tout est sombre, tout est grave. Laisse passer la lumière. Si c'est comme ça, on a dit quoi? Ton intériorité, tes midot, ton corps, ton vécu, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, les gens que tu côtoies. Il dit le Rambam, celui qui a l'Eftov, celui qui a le bon cœur, Mitraber imatovim. Il se lie avec des gens qui eux aussi sont complets. On a compris que Tovim, ça ne veut pas dire des gens bien, simplement. C'est-à-dire que les gens qui t'entourent, oui, c'est des gens bien parce que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, quand tu es quelqu'un de tordu, ne t'étonne pas que tu es entouré de tordus. Pourquoi j'ai été tordu? Pourquoi les tordus me courent après? Pourquoi je leur cours après? C'est une loi physique. Ce qui se ressemble, s'assemble. Le vide attire le vide. Les mouches sont attirées par la viande. Donc regarde ce que tu attires et regarde ce que tu es. L'autre, elle est toute contente. Ouais, j'ai toujours toute une bande de copains qui me tournent autour. Mais tu as vu le QI de tes copains? Est-ce que tu as vu? Ils sont tellement légers qu'ils flottent autour de toi. Ouais. Une bande de mouches. Maintenant, quand tu te balades dans un pré et que tu vois un tas de mouches sur quelque chose qui font zzzz, à ton avis, il y a quoi en dessous? Un livre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, ce tas de mouches? Maintenant, continue la perception. Imagine que le tas de mouches chez toi. Comment tu te sens bien entouré de mouches? C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Mitra berimatovim. Rabotai, je vous l'ai dit plusieurs fois, on a la vérité qu'on mérite. Maintenant, on a aussi le mensonge qu'on mérite. Les gens, ils aiment bien l'embrouille. Ils ont des embrouilleurs. Bah, oh Hachem, il y a des gens embrouilleurs. Tu veux la vérité? Ah, tu dis, mais c'est dur la vérité, c'est dur. Mais c'est la vérité. Maintenant, celui qui cherche la vérité, eh ben, il trouve la vérité. Celui qui veut le mensonge, il trouve le mensonge. C'est pas oh Hachem. Ça, la vie, c'est un supermarché. Il y a tout ce que vous voulez. Quand tu vas chez un type, tu vas chez le vendeur, tu dis, bon, enfin, c'est cher. Il dit, monsieur, vous avez le produit premier prix, là? C'est, il y a le produit, mais il faut se baisser. Il faut se rabaisser pour avoir le moins cher. Mais quand tu regardes la vie en face, tu vois le mieux. Il est en face. C'est à toi de savoir, qu'est-ce que tu veux? Mitra berimatovim. Ça veut dire que même les gens qui sont en face de toi, ils sont pas là par hasard. Parce qu'ils sont encore la projection de la vibration que tu aimais. Pour ça que c'est marqué, Akjbohu mezavek zivugi, Hachem y crée des couples. Les couples, c'est pas seulement l'homme et la femme. Les gens que tu côtoies, les gens qu'on t'envoie, ils sont pas là par hasard. Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Ils ont besoin de toi, tu as besoin d'eux. Dieu est grand, il fait des liens, il crée des couples. Alors les gens, ils se retrouvent. Donc la personne qui est en face de toi, elle est comme toi. Donc celui qui a l'Eftov, qui est complet dans son intériorité, il rencontre des gens qui sont entiers dans leur intériorité ou des gens qui ont l'intention d'être entiers. Ils ont l'intuition, ils ont l'ambition d'être entiers. Alors ils sont attirés par un parfum de vérité, ils cherchent. Celui qui sent le hamburger, l'autre qui sent le parfum, et l'autre qui sent la Torah. Ils cherchent. Il y a des gens qui cherchent le parfum de la vérité. Il y en a qui cherchent pas. C'est pas grave. Mais des gens ils disent ça te fait pas de la peine tous ces juifs. Mais on a libre arbitre. Vous savez qu'on fait pas, on fait pas de prosélytisme chez nous. Vous êtes au courant. On devrait normalement aller taper la porte à Sarcelles, à Créteil, à Montélimar. Alors, mets-tu les téphilines? Tu fais ce que tu veux, mon frère. Tu fais ce que tu veux. Tu veux réussir, Baruch Abba. Tu veux te planter, Baruch Abba. Il y a des gens, on est même obligé de leur souhaiter de se planter pour qu'ils trouvent la vérité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils réussissent. Il paraît qu'il faut toucher le fond pour ressortir de la piscine. T'arrives au fond, tu tapes et tu remontes. Je dis, fais comme ça. Et... Tu n'as pas encore touché le fond. Ça va venir. Tu dis, mais j'ai pas envie de toucher le fond. Alors il faut nager. Tu dis, je ne veux pas nager. Alors il va falloir ou toucher le fond ou flotter naturellement comme les cadavres qui gonflent. Il faut nager. Tu nages, tu remontes. Et celui qui a leftov, il dit le Rambam, il ne désire que des choses qui ont un intérêt et qui ne sont pas du gaspillage. Maintenant, vous avez compris. Qu'est-ce que ça veut dire un intérêt? C'est-à-dire que quand celui qui a compris que la vie, c'est quoi? C'est une série de diamants. Mais seulement, ils sont pas taillés. Il faut tailler les diamants. Il a compris que la vie, ce sont des perles. Mais elles ont un peu de mousse dessus. Il faut un peu les frotter. Il a compris que la vie, c'est une commode Louis XVI. Mais elle est un peu poussiéreuse. Il faut la nettoyer. Celui qui a compris ça, il peut pas supporter le gaspillage. Parce qu'il sait que Dieu est extrêmement précis. Et que chaque élément que Dieu va lui envoyer, ça veut dire qu'il peut l'exploiter. Maintenant, il fait un avec lui-même, un avec ses midotes, un avec son corps, un avec sa réalité, un avec ses amis. Il va pas faire un avec ce qui est devant lui. Donc, il supporte pas le gaspillage. Donc, chaque chose, elle doit être exploitée et développée. Mais pas dans un côté cupide et malin et calculateur. Non! Ça veut dire que c'est des diamants. Il est là en face de toi, il te parle. Réponds-lui. Non, je parle pas à ce genre. Mais il est là, il te parle. S'il te parle pas, t'es pas obligé d'aller le voir. Mais s'il vient te voir et tu dis bon, qu'est-ce que, si c'est pas par hasard, il te parle, dis-lui un mot. Mais il est pas. Dis-lui un mot. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si t'es tellement intelligent, dis-lui un truc intelligent. Là, il me prend la tête. Alors ça veut dire que Dieu l'a envoyé pour rien. Mais il y a aucun mouvement dans le monde. Aucun mouvement dans le monde. Le Rambam, il dit quand une feuille d'arbre, elle tombe. Dans l'Amazonie, il y a un calcul. Tu crois que Dieu n'a que ça à faire? Il n'a que ça à faire. L'influence de la chute de la feuille d'arbre sur 6 mètres de dénivellation dans une vierge forêt qui ne sera jamais visitée. Ça l'intéresse. Tu sais pas pourquoi? C'est pas grave. Tu sais même pas pourquoi quand tu respires, l'oxygène arrive dans le sang. Alors, si tu t'imagines comment tu vas comprendre l'importance cosmique du déplacement de cette feuille en Amazonie. Je t'en parle pas, je te laisse dormir tranquille, jeune yaourt. D'accord? Donc, ici c'est marqué. Ici c'est marqué que la personne, elle supporte pas le gaspillage. Pourquoi? Parce qu'elle a compris leftov. Ça veut dire quoi leftov? C'est-à-dire qu'un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre, il y a une parole des sages, c'est marqué Tzadikim, Rohim et Tarolam, Misof, Aolam, Vatsofo. Les Tzadikim, ils voient le monde d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Mais on ne peut pas voir de l'autre côté du monde. Alors je vous ai déjà dit tout à l'heure que voir, ça ne veut pas seulement dire voir physiquement. Bien qu'ils voient physiquement. Il y a des gens, tu vas les voir, ils te disent voilà ce qui se passe en Afrique, voilà ce qui se passe là-bas. Tu dis mais comment ils voient? Il est enfermé là-bas à Netivot, ils voient. Je veux dire pourquoi ils voient, tu sais pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois le mur, la rue, la ville. La route, l'autoroute, la frontière, la mer, la... Mais lui, il voit pas ça, lui. Lui, il voit une masse énorme de projections de la volonté d'Hachem. Et lui, il est en harmonie avec tout ça. Maintenant, il n'y a plus de géographie. Encore une fois, il fait un avec Dieu dans sa tête. Il fait un avec Dieu dans ses midotes. Il fait un avec Dieu dans son corps. Il fait un avec Dieu avec son vécu. Il fait un avec Dieu avec ses amis. Et il fait un avec Dieu avec les gens qui l'abordent. Donc il accepte tous les événements. Donc maintenant, il est dilué à l'intérieur de la réalité. Donc maintenant, il absorbe la réalité partout. Donc ici, et le Paraguay, pour lui, c'est le même endroit. Il n'a plus de limite géographique. Il voit, il ressent, il comprend. Il ferme les yeux, il est ailleurs. Il transmet, il perçoit, il émet, il réceptionne. Il est rentré dans la dimension universelle du monde. C'est ça tzadik qui est sod olam. Le tzadik, il est la base du monde. C'est pour ça que sa bracha, elle marche là-bas. Mais il n'a pas été là-bas pour tirer les oreilles. Pourquoi il a fait tchouva à son fils? Parce qu'il l'a béni. Mais sa bénédiction à lui, Sa parole, ce n'est pas du bruit qui sort de sa bouche et qui résonne dans tes oreilles. Sa parole, elle est intérieure. Or, dans l'intériorité, il n'y a plus de limite géographique. Donc, elle est ici et là-bas, pareil. C'est de l'air comprimé qui va taper en pleine tête du mec là-bas à Los Angeles. Il va dire, il faut que je mange cachère. Il vise bien le tzaddik. Il vise bien. Il connaît les codes d'accès de l'ordinateur général là-haut. Donc, tu lui dis, Eliyahu Ben Haïm. La mère, elle vient dire, je vous en prie, priez pour mon fils. Il est à Los Angeles. Il est perdu, il est perdu. Comment il s'appelle? Eliyahu Ben Haïm. Il dit, Yeratson, ça monte là-haut, le faisceau du laser. Il arrive dans l'ordinateur central. Eliyahu Ben Haïm, recherche, scan. Los Angeles. Une boîte de nuit pourrie, un mec à plat ventre sous la table. C'est lui. On envoie un ange. Ward voyou. Il le prend par les cheveux, sort de la pourriture, il le jette dehors. Juste à ce moment-là, il y a un mec qui passe en voiture, il a failli l'écraser. Oh, il le voit par terre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Monte avec moi, on est vendredi, tu vas pas passer Shabbat dehors. Il a vu qu'il avait un high, il a vite pour Shabbat. Au bout de 2 jours de désintoxication, il voit un peu plus clair déjà. Il dit, ah bon, ah ben on est cousins. Bah oui, toi aussi, t'es dans, ah, toi aussi, ah ben, ah, je suis là-bas, ah, c'est extraordinaire, ah, tu connais ma mère, hop. Oh. Ah, oh, ça m'a fait le plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, tout ça. Bon, alors, bah écoute, pourquoi tu restes pas pour le Shabbat prochain? Ah, merci beaucoup. Et le type, il a fait teshuva. Qui c'est qui lui a envoyé cet ange? La prière de sa mère, qui est passée par le terminal du tzaddik. Ça va? Alors, il est où le tzaddik? Ben, il est partout. Tzaddik, il est sod, rolam. Mais c'est quoi un tzaddik? Mais c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Vous avez compris que maintenant, ce travail là, de fusionnement qu'il a fait avec la réalité, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de distance, il n'y a plus rien. Ça va? Le Rabbi Nouyona, il pousse encore la définition. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Leftov, c'est quoi? Je vous signale que pour l'instant, il est toujours dans Leftov. Il dit, Leftov, c'est quoi? Ratsalomar, midat aratson. Midat aratson, ça veut dire, c'est la qualité de volonté. Mais quel rapport maintenant? C'est quoi ratson? On a déjà expliqué, ratson, ça veut dire volonté, c'est vrai. Mais le mot ratson, il est un peu bizarre. Par exemple, en hébreu, on dit, Anirotse, je veux. Donc la volonté, c'est l'expression de moi. C'est le véhicule de mon propre projet existentiel, on dit en psychiatrie, d'accord? C'est je veux, d'accord? Donc la volonté, c'est l'expression de moi. D'un autre côté, le ratson, c'est aussi la volonté de l'autre. Par exemple, ça s'appelle l'agrément. Quand on prie, par exemple, on dit Iyeh ratson. Quand on veut quelque chose, on prie Hachem, on dit Iyeh ratson. Ça veut dire quoi, Iyeh ratson? Traduction, ça veut dire que ça soit ta volonté. Qu'elle soit ta volonté, ouais? Mais est-ce que ça veut dire qu'elle soit ta volonté ou qu'elle soit ta volonté? Est-ce que je peux imposer à Dieu la volonté? Donc, le mot ratson, il veut dire volonté de celui qui l'aimait et agrément de celui d'en face. Donc, agréé et volonté, c'est le même mot. Comment on dit dans la prière de Shabbat? Uretse bemenuchatenu. Et agré notre Shabbat. Le Shabbat, vous savez ce que c'est le Shabbat? C'est pas genre un jour férié, un week-end. Le Shabbat, c'est un sacrifice, un korban que tu fais à Dieu. Maintenant, c'est un sacrifice de kiff. Tu manges, tu dors, tu étudies la Torah, tu passes un moment avec ta famille. Et ça, tu prends ce Shabbat, ouais, et tu le donnes à Dieu. Tu dis, Dieu, accepte ce Shabbat, prends-le ce Shabbat, je te le donne. C'est mon korban. C'est ça où Retse Beminuchatenu, on le dit dans la prière. Agrée, accepte notre Shabbat. Mais je comprends pas maintenant, quel rapport entre vouloir et agréer? Vouloir, c'est moi qui exprime, et agréer, c'est toi. Toi, tu agrées ma volonté. Mais ça s'appelle le lien d'amour. Parce que moi, j'ai la volonté d'être, et toi, tu acceptes ma volonté d'être. Donc, toi, tu as la volonté de m'accepter, et moi, j'ai la volonté d'exister. La communion des volontés s'appelle l'amour. Maintenant, nous, on veut avoir une relation d'amour avec Dieu. Donc, on exprime la bonne volonté, et lui, on espère qu'il exprime la bonne volonté. La communion des deux bonnes volontés s'appelle l'amour. Alors, maintenant, quel rapport avec Leftov? Leftov, il dit, c'est midat aratson. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est un truc très profond. Le mot ratson, ils disent les commentaires, c'est les mêmes lettres que le mot tsinor. Le mot tsinor, ça veut dire tuyau. D'accord? Par exemple, on dit, les tzadikim sont des tsinorot. Ce sont des tuyaux. Quand tu demandes à quelqu'un, t'as pas un bon tuyau? Tu dis, va voir. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le tzadik c'est un tuyau? Parce que le tzadik c'est un transmetteur. Entre toi et Dieu, il y a un tuyau qui s'appelle le tzadik. Ouais? Alors, écoute bien maintenant ce que je te dis. Si le mot ratson, c'est les mêmes lettres que le mot tsinor, donc ça veut dire que la volonté, c'est un tuyau. Alors écoute bien ce que je te demande. quand on dit que la volonté, c'est un tuyau, c'est grave. Parce que nous, qu'est-ce qu'on croit, nous ? Nous, on croit que la volonté, c'est un outil d'exploitation du monde réel, selon ma vision personnelle. Ouais ? Je veux ! Mais d'après la Torah, la volonté, c'est pas un outil pour exploiter le monde. La volonté, c'est un tuyau qui te permet de transcrire la volonté de Dieu dans le monde. Je sais pas si vous me suivez. La Torah, c'est, la volonté, c'est un tuyau. C'est pas un outil, c'est un tuyau. Ça veut dire quoi? Si tu pousses encore. Et là, vraiment, je vous demande de comprendre. Ça veut dire que quand tu fais ta volonté, que tu le veuilles ou non, tu fais la volonté de Dieu. Si tu adhères avec ce que Dieu veut, tu fais la volonté de Dieu. Et si tu n'adhères pas avec ce que Dieu veut, tu vas faire ce que Dieu a besoin, parce qu'il a aussi besoin de tordu, Dieu, et ça sera la volonté de Dieu, ça sera pour toi. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. Toi, tu es libre de faire le bien et le mal, tu choisis. Mais sache que quand tu as fait le bien que tu as produit, Dieu va l'utiliser pour faire du bien. Maintenant, toi, tu as décidé de faire le mal. Ça t'appartient, tu as le choix de faire le mal. Mais maintenant que tu as fait le mal, sache que le mal que tu as produit, Dieu va l'utiliser pour faire du mal. Donc, ça veut dire quoi? Avant ta décision, la volonté, elle est divine. Après ta décision, l'optimisation de ta décision, l'exploitation de ta décision, elle est divine. Donc, Dieu, il est avant, il est après. Et toi, tu es au milieu et tu exprimes ta volonté, c'est tout. Ça va? C'est que toi, tu exprimes et Dieu réalise. Donc, ça veut dire que maintenant, ta volonté, elle ne devient qu'un tuyau de transmission de la volonté de Dieu. Donc, c'est quoi le challenge? C'est est-ce que tu vas participer au dessein de Dieu ou est-ce que tu vas être obligé de participer au dessein de Dieu? Toujours, je donne l'exemple de Pharaon. Pharaon, Dieu est venu lui dire « Fais sortir les bénis Israël d'Égypte. » Pharaon, il a dit « Non! Fais sortir! Non! » Fais sortir, non. Ben ils sont sortis. Quelle différence? C'est que toi, au lieu d'être un acteur partenaire de la sortie d'Égypte, tu es devenu un pion figurant dans le décor de la sortie d'Égypte. C'est que dans la vie, tu seras ou acteur ou pion. C'est ça que tu comprends pas. Les gens disent, croyez, je sais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Mais tu comprends pas, baba. On prend de la terre. On fait des briques, on fait des murs avec. T'as pas compris? On prend du calcaire, on le brûle, on fait du ciment, et avec on fait des parpaings, et après on fait des murs. Qu'est-ce qu'il en pense? Le ciment. Il prend. Toi, c'est pareil. Tu peux être partenaire de Dieu. Il y a que le peuple juif qui a cette possibilité, je vous dis tout de suite. Tu peux être partenaire. Dieu dit, j'ai un projet, je veux des partenaires. Tu peux être partenaire. Tu es partenaire, ça veut dire que tu es actif dans le projet divin. Tu dis, non, ça ne m'intéresse pas. Mais tu vas être dans le projet divin. Mais au lieu d'être actif, tu vas être passif. Il faut un décor, il faut un décor. Il faut des figurants, il faut des figurants. Il faut de l'ambiance, il faut de l'ambiance. Il faut des vivants, il faut des vivants. Il faut des morts, il faut des morts. Appel d'offres. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas d'accord. Regarde, c'est comme si toi, tu es en Andalousie, en Indonésie, et tu veux arriver, ouah, vague, genre tsunami. Et tu dis, je suis pas d'accord. Et la vague, elle fait, ha, 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 ha. Ben, c'est tsunami, hein. Je suis pas d'accord. Alors, si déjà, tu t'affoles d'être emporté par une vague, tu penses pas que Dieu y représente quelque part, vaguement, une vague. Maintenant, tu peux être dans la vague. What surfeur? Tu prends un Sefer Torah et tu surfes sur la vague. Ou tu peux être emporté par la vague. Tu es dans les statistiques. Il nous faut des brels. Allez, vas-y, ramasse. Il nous faut des plantés. Il y en a encore, il en reste. Je voudrais du rab. Il en reste, prenez du rab. Ça manque pas. Oh, bataille, c'est impossible. Donc c'est ça ce qui est marqué. Midata Ratson en vérité. C'est Midata Tsinor. En vérité, un homme, il développe sa volonté, il devient indépendant, il devient intelligent, il devient maîtrise, il devient fonction, il devient extraordinaire. Et tout ça, il est tuyau. Il est un tuyau pour Dieu. Tu vas me dire, mais enfin, ouais, mais quelque part, c'est un renoncement à la capacité d'autorité et de libre arbitre de l'homme. Mais non. La grandeur de quelqu'un, elle est toujours relative à l'espace qu'on lui circoncit. Donc on t'a donné un espace de liberté. Là-dedans, tu es le maître. Mais cet espace de liberté, quand tu le remets dans le contexte de l'absolu, mais t'es une particule, mon frère, accepte-le. Tu dis non, je suis pas une particule, je suis un chef de famille. Mais oui, bon, ça va, t'es un chef de famille, d'accord. Mais t'es une masse de particules. C'est pas grave. Encore une fois, devant l'homme, peut-être c'est difficile. Devant la réalité, c'est dur. Devant les impôts, n'en parlons pas. Mais devant Dieu, ferme-la. Encore tu te prends pour... Devant Dieu, encore tu te la joues, encore. Ferme-la. Maintenant, quand tu te la fermes, ça ne veut pas dire que tu es devenu un cabot. Ça veut dire que tu t'inscris dans un modèle global et que ce modèle, il amène le Mashiach. Alors ferme-la au lieu de lui prendre la tête. Avance. C'est un modèle global. C'est le modèle de Dieu. Il avance. Donc c'est marqué. Donc le maintenant, vous avez compris, celui qui a Leftov, ça veut dire qu'il... Comme le tzaddik, il s'inscrit dans la réalité. Donc maintenant, il fait partie du projet global. Or, c'est quoi la réalité? C'est la projection du projet global de Dieu. Et c'est pour ça, il dit que celui qui a Lev Tov, Zewa Savlan. C'est ça, pour ça qu'il est patient. C'est quoi un homme patient? C'est quoi la patience? La patience, c'est d'accepter la différence. La patience, c'est d'accepter le rythme. La patience, c'est d'accepter que les choses, elles prennent du temps. La patience, c'est d'accepter que les choses, elles se font. C'est la patience. Mais pourquoi t'es nerveux? C'est pourquoi t'es nerveux? Parce que tu ne supportes pas que ça va pas à ta vitesse. Je t'ai déjà expliqué la notion du pluriel. On est deux. T'es nerveux parce que tu trouves que l'autre, il est trop sincère. Pourquoi? Parce que toi, t'es un menteur. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que la savanoute, c'est que tu t'inscris de manière harmonieuse à l'intérieur d'une réalité qui bouge. C'est ça la patience. La patience, c'est s'inscrire de manière harmonieuse à l'intérieur d'une réalité qui bouge. Maintenant, toi, t'aimes pas la réalité qui bouge parce que tu bouges pas. Donc, ça t'énerve. Maintenant, tu comprends pas que les autres évoluent. Donc, ça t'énerve. Tu vois pas tes enfants grandir. Donc, ça t'énerve. Tu vois pas que ta femme, elle change. Donc, ça t'énerve. Toutes choses auxquelles tu n'es pas adapté est synonyme de nervosité. Par contre, le contraire. La sérénité, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Or, normalement, tu ne dois pas avoir de surprise. Donc, si tu n'as pas de surprise, tu n'es jamais énervé. Puisque les nerfs, c'est la résonance du choc de la surprise. Donc, toi, tu es tout le temps énervé. Ça veut dire que tu es tout le temps inadapté. Tout le temps. À tout. Après, tu t'étonnes que tu attrapes une maladie nerveuse. Ben c'est normal. Tu n'as pas de recul. Tu n'as pas de projection, tu n'as pas de compréhension. Tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'acceptation. Tu n'as pas de vécu. Alors tout énerve, c'est normal. Tu es tout le temps en réveil. C'est comme si... Tu sais quand quelqu'un en réveillant sursaut. Il y a des gens comme ça en réveillant sursaut. Mais imagine-toi en te réveillant sursaut toutes les secondes. Tu dis je vais mourir. Laissez-moi dormir. Dès que tu rentres dans le sommeil, les gens comme ça, toute la journée, ils voient leur fils, leur femme, leur mère. Toi, tu es le Nahat. Le Nahat, tu es pilote d'un fantôme, les avions là, dans l'air. Il n'y a rien qui bloque. Les pieds en l'air, les pieds en truc. Tu es tranquille. C'est pas des rideaux, c'est les rideaux en plastique, les rideaux en fer. T'es enfermé dans ta lourdeur, dans ta bêtise, dans le regard de l'autre, dans la difficulté, dans la Star Academy, dans la bouffe, dans le fric, dans les impôts, dans le retard, dans le métro, dans le RER. Tu t'en as pas marre de... Regarde la vie, c'est l'air. Avance, vas-y, démarre, décolle. Quand pas, t'as un réacteur, t'as un milliard de puissance, et t'es comme ça. C'est marqué ici. Chez Eno Katserarouar, qui n'a pas un esprit obtus. Leftov, il n'a pas un esprit obtus. Pourquoi? Parce qu'on a compris maintenant. Lui, il est en homogénéité avec la réalité. Donc, il ne peut pas avoir un esprit obtus. Il accepte. Tu dis oui, il accepte. Tu dis non, il accepte. Tu t'investis, il accepte. Tu t'investis pas, il accepte. La vie continue. Il n'est pas en attente, il n'est pas en angoisse, il n'est pas en stress. Il avance. Donc, cette ouverture d'esprit, ce qu'il avait dit tout à l'heure, Ein Tova. C'est l'œil, le bon œil. Il s'éloigne de la qualité de colère. On a compris pourquoi, parce que la colère, c'est l'inadaptation, mais lui, il est adapté à tout. Il répond toujours avec gentillesse, avec douceur. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'en fin de compte, toute la relation que tu entretiens avec la réalité, elle est définie par le fait que ton être intérieur est construit. Ça s'appelle Lev Tov.
Lev tov. Ça suffit pas d'avoir un lev. En plus, il faut qu'il soit tov. Maintenant, un cœur, on a compris maintenant. Ça veut dire que toute ton intériorité, toute ta dimension, elle est développée, elle est construite, elle est précise. C'est une œuvre d'art. Oui, il y a des milliards de composants, chacun y a sa place et chacun fonctionne à sa place au niveau ponctuel et au niveau intemporel. Ça veut dire que les choses, même dans le mouvement, elles s'inscrivent dans une logique qui t'appartient. Là, on peut comprendre. Dis maintenant, pour ça, il faut que tu acceptes le pluriel. Il faut que si tu acceptes le pluriel de l'autre, il faut que si, on a dit que tu acceptes le pluriel de la Torah. Donc tu as besoin de vivre avec l'autre, tu as besoin de vivre avec la Torah de l'autre. Maintenant, la Torah de l'autre, c'est quoi? Ça veut dire que chaque Ben Israël, c'est marqué Kol Israël Yeshlo Chelek Batorah. Chaque Ben Israël, il a une part dans la Torah. C'est quoi une part dans la Torah? Ça veut dire que chacun d'entre nous, au-delà des 613 mitzvot, au-delà du Shulchan Aruch, il a une part dans la Torah. Toi, tu dois écrire des commentaires sur la Torah. Toi, tu dois écrire des commentaires sur la Torah. Toi, tu dois écrire. Maintenant, toi, en toi, tu as des commentaires sur la Torah qui n'existent nulle part ailleurs. Tu dis, mais j'ai jamais étudié la Torah, j'ai même pas été à l'école juive. Je sais. Tu dois aller à l'école juive, étudier la Torah, étudier la Yeshiva, devenir un Talmid Chacham, c'est-à-dire enseigner, devenir un Chacham et écrire des commentaires sur la Torah qui te viendront d'un niveau d'intuition qui est perceptible pour toi selon un certain degré de pureté, qui n'est accessible à personne au monde à part toi. C'est ta Torah, toi. Chaque juif, il a une part dans la Torah. Maintenant, si on dit que chaque juif, il a une part dans la Torah, ça veut dire que quand on dit, vous savez, Dieu a donné la Torah. Un jour, il s'est passé un événement historique qui s'appelle le don de la Torah, et Dieu donna donc la Torah. Nous fêtons, commémorons cet événement solennel du don de la Torah. Mais c'est faux. Dieu n'a pas donné la Torah. Dieu donne la Torah. C'est marqué dans la Gemara de Brachot que Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu tout ce qui est contenu dans la Torah jusqu'à ce qu'un petit élève, à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, il va trouver un hidouche dans la Torah. Moshe Rabbeinu l'a reçu. Maintenant, cette Torah, elle est diffusée au fur et à mesure. Ça veut dire que la Torah écrite, c'est ce qu'il y a dans le Chumash, c'est ce qu'il y a dans les prophètes. Mais la Torah orale, c'est toute la Torah qui est véhiculée dans ta génération. C'est ta Torah. Je sais pas si vous me suivez. La Torah de ta génération, c'est ta Torah. Par exemple, la pluie. Ce qui a plu au Moyen-Âge, pourras-tu profiter de la pluie du Moyen-Âge? Tu dis, non, écoutez, je ne suis pas au Moyen-Âge, je vis en 2005. Donc la pluie qui a plu au Moyen-Âge, je ne peux pas en profiter. Mm-hmm. Alors sache que la connaissance sur la Terre, elle est distribuée selon la demande qui est sur la Terre. Donc les contemporains étudient la Torah et Dieu leur renvoie la Torah. C'est une Torah contemporaine pour les contemporains. Par exemple, on raconte une fois qu'un rav, il a passé 3 jours pour étudier un sujet. Il est rentré à l'yeshiva, il a posé la question aux élèves, les élèves, ils ont répondu tout de suite la réponse. Il a eu l'angoisse, il a dit, attends, moi je suis le rav, j'ai passé 3 jours à réfléchir. Eux, ils ont répondu comme ça. Il était angoissé, il a été voir un autre rav. Le rav lui a dit, mais c'est normal, toi, quand tu as étudié de tout ton cœur, tu as fait descendre cette connaissance sur la terre. Maintenant qu'elle est descendue sur la terre, elle est accessible à tous. Comme toi, tu t'es crevé 8 ans à préparer un brevet. Et maintenant, toutes les bouteilles d'eau ont cette forme de bouchon. Tu dis, mais c'est trop facile, le mec il achète une bouteille à 1 euro, il a le bouchon que moi j'ai mis 8 ans à trouver. C'est un brevet, mon frère, il est redistribué. Donc quand tu fais descendre la connaissance, elle profite à tout le monde. Donc la pluie du Moyen-Âge, tu ne peux pas l'avoir. Et bien la Torah du Moyen-Âge aussi, qui est comme la pluie, tu ne l'auras jamais. Maintenant, tu regrettes la Torah du Moyen-Âge. Ce n'est pas la peine de la regretter, tu n'es pas au niveau. Parce que si tu étais au niveau de la Torah du Moyen-Âge, tu aurais vécu au Moyen-Âge. Mais toi déjà, quand il pleut, tu vas pas à la yeshiva. Alors à l'époque des pogroms, je pense pas que tu aurais étudié la Torah. Tu te serais tout de suite converti. Avant qu'il vienne l'inquisition, tu aurais dit, écoutez, je suis une avant-première. Mais on vous a rien demandé, je suis. Il y a des gens comme ça. Si c'est comme ça, donc je réfléchis maintenant. Je dis, la Torah maintenant, elle est dans ma génération. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois profiter de toute la Torah de ma génération. Mais comment je vais profiter de toute la Torah de ma génération? Il y a des rabbanim en Israël, il y a des rabbanim en Russie, il y a des rabbanim là-bas, il y a la Torah ici, il y a la Torah là-bas. Comment je vais faire? Normalement, dans l'absolu, je dois avoir la Torah de tout le monde. Non seulement la Torah des tzadikim, mais je dois même avoir la Torah des rishaim. Comme ça, c'est marqué dans les commentaires. Oui. Pourquoi est-ce qu'un juif, il doit aider les autres juifs à faire teshuva? Pourquoi? Tu dis, c'est une mitzvah, c'est bien, c'est une bonne ambiance, ça crée un truc tous les mardis, il y a un résumé, il y a une ambiance. Mais non. C'est parce que chaque juif, il a une mitzvah d'apporter la Torah. Maintenant, vous avez besoin de ma Torah. Moi, j'ai besoin de la vôtre. Alors, où est cette Torah? Ouais, mais tu sais, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Je
sais, ça fait 12 ans que c'est pas évident. Ouais, je sais. Mais, Baruch HaShem, il se casse la tête. Vous savez que j'ai des élèves du mardi qui sont partis en Israël, qui sont partis à l'Yeshiva et qui ont écrit des livres de commentaires sur la Torah. Tu t'imagines, toi, dans 10 ans, écrire un livre sur le commentaire sur la Torah? Un élève du mardi était grossiste au sentier, pour te dire. Comme quoi les baskets, Timberland, ça... De Timberland, il a été à Holy Land. Rah ! D'accord. Et Baruch HaShem, il a écrit des commentaires sur la Torah. La semaine dernière, j'en ai vu un. Il a créé un kollel à Bnei Brak. Un kollel. Il me raccompagnait le mardi soir, il y a 12 ans, il me raccompagnait, je me rappelle. Il me raccompagnait. Un type travaille dans l'informatique. Il m'a dit, Armin Chetri, vous savez, qu'est-ce que vous en pensez? J'en étudie à plein temps. Je dis, écoute, moi, jamais je pousse. Je dis, bon, comment tu sens? Comment tu trucs? Ouais, mais c'est pas évident. Nanana. Baruch HaShem, il a été renvoyé de son boulot. 2 ans de chômage à 20 000 francs par mois. Il est rentré à l'Yeshiva. Il a fait 2 ans d'Yeshiva. Après, il est parti en Israël. Après, il est revenu. Après, il s'est marié avec la fille d'un grand rave au Maroc. Après, il est revenu. Il a fait encore 5 ans. Il est parti en kollel. Et maintenant, voilà, Baruch HaShem, il crée un kollel. Mais comment tu regardes? Tu te regardes ce mec-là? Tu mets. Ça te fait vieillir quand même, tu dis. Et c'est un pilier. Un pilier. Un type qui a commencé à 30 ans. Hein. À peine lire. Maintenant, il tient un kollel à Bnei Brak. C'est possible. Et l'autre, il dit, moi, en 4 ans, j'ai pas réussi à prendre une Mishnah. Le type, il sait ce qu'il a sacrifié. Alors, il sait ce qu'il va mettre dedans. Un autre, pareil, il avait créé un département chez, comment ça s'appelle, JVC ou le truc de électronique, là. Je crois JVC. Non, JVC. Il pleurait quand il est parti. Il m'a dit, ils lui ont écrit une lettre pour lui dire de rester. Il a pris un an sabbatique. Au Hachem, maintenant, il a Shoafat, il a 4 enfants, il est marié, collé le mal, il donne des cours. Pareil. Un type, il connaissait rien. C'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Torah, elle existe, elle est en nous. Ah, maintenant, est-ce qu'on se donne les moyens? Et combien de filles? J'ai tabaye de vegan. Combien j'ai vu de films? Je vois les pires. Je vous étiez au mardi. Oui, oui, et vous. Au Hachem. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut avoir une ambition, il peut avoir un but, il peut avoir un. Et se donner, tu dis, ouais, mais à quoi ça sert? Je suis là avec mes copines, c'est pas évident. Puis elles vont se moquer de moi, elles vont dire, oh, la religieuse. C'est pas grave, au Hachem. T'es religieuse, t'es pure, t'es propre, t'as un mari extraordinaire, t'as des enfants, tu vis en Israël. Qu'est-ce que tu veux de mieux maintenant? Et toi? Ah, bah moi, j'ai 38 ans, j'ai eu 194 copains, j'ai trouvé personne, mais j'espère bien, si Dieu veut, que dès que ça ira mieux dans ma tête et qu'il acceptera mes 4 enfants de 4 papas différents. C'est pas honteux d'évoluer, c'est pas honteux. Au pire, c'est mieux. Hein. Cette logique-là, ça veut dire que j'ai besoin de la Torah des autres. Je suis juif, j'ai besoin de la Torah des autres. Chacun, il a besoin de la Torah de l'autre. Alors si c'est ça, regardez bien maintenant. Pendant cette période du Omer, vous savez qu'on est en deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont morts. On a dit que l'amour, c'est quoi? C'était la communion des volontés. Maintenant, pourquoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiba? Il y a beaucoup d'explications. Mais en deux mots, une des explications, elle dit la Gemara, parce qu'ils n'avaient pas de respect l'un envers l'autre. Alors attention, il ne faut pas faire du lachonara sur les élèves de Rabbi Akiba, on n'est pas au niveau. Même leur averot à eux, c'est des mitzvot pour nous, je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Donc, les élèves de Rabbi Akiba, ils sont morts, pourquoi? Alors je vous explique pourquoi. C'est un peu absolu, mais c'est comme ça. Chaque élève, chaque rave, il a des élèves. Maintenant, c'est quoi des élèves? Quand Hachem, il aime un rave, il lui donne des élèves. Pourquoi? Parce qu'il veut propager l'enseignement du rave. C'est comme un peu des logiques de photocopie, d'accord? Maintenant, le problème, il est que nous, on est attirés par un certain rave. Comme par certains élèves. Il n'y a pas de hasard. On n'a pas des élèves par hasard, on n'a pas un rave par hasard. C'est comme ça. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Netiyat Haneshama, la tendance de l'âme. Maintenant, ton âme, elle te porte plutôt vers ce rave-là que celui-là. Maintenant, ils sont tous gentils, mais celui-là, tu comprends rien ce qu'il raconte. Et celui-là, ça te rentre dans le cœur, c'est grave. Comme, exactement. Ça veut dire que c'est une Netiyat Haneshama, c'est une tendance de la Neshama. Maintenant, attention, chaque élève a une tendance de Neshama. Alors, si chaque élève a une tendance de Neshama, comment un rave, il peut avoir plusieurs élèves? Alors, je t'explique pourquoi. Parce que le rave, Rabbi Akiba, c'est comme un diamant. Rabbi Akiba, vous savez que dans chaque diamant, il y a des facettes. Le minimum, c'est 70. Maintenant, Rabbi Akiba, il a 2400 facettes. C'est très rare pour un diamant. À 240 facettes, déjà, c'est énorme. Il a 2400 facettes. Maintenant, pourquoi un diamant, il brille? Parce qu'il renvoie la lumière. À cause des facettes. Une vitre, elle brille moins qu'un diamant. Parce qu'il y a moins de facettes. Il y a une seule face. Maintenant, chaque Imaginez, vous prenez un diamant de 70 facettes et vous prenez 70 miroirs. Vous mettez chaque miroir en face de chaque facette, dans le même angle, en parallèle. D'accord ? Vous envoyez de la lumière sur le miroir, sur le diamant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une explosion de lumière parce qu'il va se créer un arc de lumière entre chaque facette et chaque miroir. Mais suivi ? Ça va ? Voilà. Maintenant, Rabbi Akiba, il a 24 000 facettes. Donc, il a 24 000 élèves. Chaque élève perçoit une facette de Rabbi Akiba. Alors, je vous dis tout de suite. Rabbi Akiba, dans son entité, c'est un tzaddik. Mais Rabbi Akiba, en séparé, c'est un danger public. Pour la rime, oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, un homme, il doit avoir de l'intelligence, on l'a dit, et il doit avoir de la patience. Il doit avoir des midot, il doit avoir aussi de l'intelligence. Maintenant, si quelqu'un il a de l'intelligence, il n'a pas de midot. C'est un danger public. C'est un scanner. Il te regarde. Toi, t'es nul, tu t'en sortiras pas. Toi, t'es foutu, toi, t'es pourri, toi, t'es... Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné l'intelligence, la force d'analyse, et en même temps, il a donné la patience. Donc, tu vas lui débiter des lourdeurs pendant une heure. Il va te dire, mais non, ça va aller, tu vas t'en sortir. C'est rien de grave. Suis ce petit programme et tu verras, tout va s'arranger. Et qu'en vérité, tu sais que toi, que le chemin, il en a à peu près pour 18 000 kilomètres, mais tu lui montres que c'est au bout de la rue. Après, quand il a démarré le chemin, il comprend qu'il faut qu'il devienne autonome. Et ben, au Hachem, il devient quelqu'un d'intelligent. Si t'as pas de patience, tu dis, mais laisse tomber, mon frère. Mais laisse tomber. Tu veux que je te dise, d'après la Torah, t'es un goy. Allez, dégage. Enfin, écoute, j'ai fait la Brit Mila. Oui, bah, t'aurais mieux fait de la faire là. Ah! Bah, ouais, tu comprends rien, t'as rien appris, tu manges du porc, tu qu'est-ce que tu veux avec la Torah maintenant? Si Dieu veut. Même le nom de Dieu, il est étranger dans ta bouche. Alors, comment tu vas faire? Donc, Dieu, il a donné la patience en même temps que l'intelligence. Sinon, le mec, c'est un dangereux. C'est un dangereux. C'est pour ça qu'il doit être complet. Left of, ça va? Rabbi Akiba, il a les 24 000 qualités. Il a les 24 000 facettes, il a les 24 000 élèves. Mais les 24 000 élèves, ils ont absorbé chacun une facette. Donc ce sont des micro-morceaux de Rabbi Akiba. Extrêmement dangereux, lâchés dans la nature. Maintenant, comment ils vont faire pour devenir des Rabbi Akiba s'ils n'ont qu'une facette de Rabbi Akiba? Il faut que chacun, il apprend la Torah de l'autre élève de Rabbi Akiba. Donc ils ont un 24 millième de Rabbi Akiba, il leur manque 23 999 facette. Ça va? Ils n'ont pas compris ça. C'est marqué qu'il y a 12 000 paires d'élèves de Rabbi Akiba qui sont morts. La Gemara a dit, pourquoi on dit 12 000 paires? Pourquoi on ne dit pas 24 000? Parce que chacun, il étudie avec son chavère, il ne voulait pas connaître la Torah des autres. Il dit, oui, il a compris comme ça, moi je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir. Ils n'ont pas appris de l'autre. Mais comment tu ne peux pas apprendre de l'autre? Mais il faut être en harmonie, il faut être en fusionnement avec l'autre. Sinon, tu ne peux pas avoir l'enseignement de Rabbi Akiba, parce que Rabbi Akiba, il est 24 000 fois toi. Ils ont dit non. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu apprendre de l'autre. C'est quoi apprendre de l'autre? Le kavod. Le kavod, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Je te donne le kavod, tu me donnes le kavod. Donc moi, j'existe vers toi, grâce à toi, et donc je te donne ma Torah que j'ai reçue de Rabbi Akiba. Toi, tu me donnes ta Torah que tu as reçue de Rabbi Akiba. Ils n'ont pas réussi à fusionner. Mais comment ils ont pu ne pas fusionner? La fusion, on a dit que c'est la fusion des bonnes volontés. La fusion des bonnes volontés, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est une mitzvah de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiba? Zeklal gadol batorah. C'est un grand enseignement dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment vous, les élèves, vous n'avez pas compris? Encore une fois, n'allez pas chercher que c'est des gens méchants, des gens tordus, des gens... Non, 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 c'est profond. Ça veut dire qu'ils pensaient, ils avaient une espèce d'autosuffisance dans leur perception. Ils ont dit, bon, j'ai compris, bon, Hachem, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de l'autre? Qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah de l'autre? Mais t'as pas compris, l'autre c'est un élève de Rabbi Akiba. Toi aussi t'es un élève de Rabbi Akiba. Si tu n'as pas la Torah de l'autre, t'as pas Rabbi Akiba. Écoute, j'ai compris ce que j'ai compris, ça me suffit. Mais non! Donc, l'on a goût qu'à votre zélazé. La Gemara, elle dit pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas eu du respect l'un pour l'autre. On a dit que le respect, c'est l'invitation à l'existence. Donc, c'est la communion des volontés. Donc, tu dois être leftov à l'intérieur. Tu dois être leftov avec les autres. On a dit mitraber imatovim. Tu te relies avec les gens qui sont entiers aussi. Ça va? Ils sont morts, Rabotai. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils n'ont pas été punis. Mais ce sont des élèves de Rabbi Akiba. Ils n'ont lieu d'exister qu'en fonction de leur fonction d'élève. Puisqu'ils ont perdu leur capacité d'élève, puisqu'ils ne sont pas complets, donc ils meurent. Ils meurent. C'est comme une fleur. Quand tu la coupes de la source, elle meurt. Comme un billet de 100 euros. Tu le déchires en petits morceaux. Tu dis, je regrette. Il est mort. C'est des confettis, mais c'est des confettis qui valent 100 euros. Ça vaut rien. Un billet complet, c'est 100 euros. Un billet en confetti, c'est zéro. Rabbi Akiba en confetti, ça vaut zéro. Ce sont des confettis de Rabbi Akiba. Ils sont morts. Maintenant, quand est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est la période de préparation pour recevoir la Torah. Donc ils n'ont pas accepté de recevoir la Torah de l'autre. Alors ils sont morts. De quoi ils sont morts? Ils sont morts, a dit la camarade, de Ascara. C'est quoi Ascara? Diphtérie. Les parois de la gorge qui s'épaississent au point que la personne, elle meurt étouffée. Elle dit la Gemara pourquoi? Comme ils n'ont pas voulu transmettre la Torah à leurs amis, donc la Torah elle est restée étouffée en eux, donc leur gorge elle s'est fermée, parce qu'à quoi elle sert la gorge, sinon à exprimer la Torah? Tu crois que la gorge elle sert à quoi? Faire des blagues à la télé? À quoi elle sert la gorge? La gorge elle sert à transmettre la Torah. Donc puisque vous n'avez pas transmis la Torah, vous êtes mort étouffé. Comme la Gemara dit, Achitophel, c'était le maître de David Améler, il n'a pas voulu enseigner la Torah qu'il avait en lui, quand on lui posait une question, il voulait pas répondre, il est mort de l'ascara, il est mort de la diphtérie, c'est-à-dire d'étouffement, parce qu'il a gardé la Torah en lui. Maintenant, combien de temps il a duré l'épidémie? Combien? 33 jours? Non, le 33e, c'est la fin de l'épidémie, à l'Akba Omer. Ouais. Donc, elle a duré 32 jours. 32, c'est combien en lettres? La Medbet, lève. Combien il manquait pour arriver à Shavuot, à 49? 17. 17, c'est combien? Tov. Ils avaient le lève, mais il n'y avait pas le Tov. Ils n'étaient pas complets. Ils n'étaient pas complets, hein, Botaï. Il y avait le lève, mais il n'y avait pas le Tov. Quel jour ça s'est arrêté? Le Yutret Yar. Regarde bien. Yutret, c'est quelle lettre? Hai, la vie. Yar, c'est quoi? Aleph, Yud, Yud, Resh. Aleph, Yud, Yud, Resh. Oui, c'est... Aleph, c'est 1. Et Resh, c'est combien? 200. Et 2 fois Yud, 20. Ça fait combien? 221. Maintenant, Erech, c'est aussi 221. Aleph, Resh, Kaf. Mettez un Kaf à la place des deux Yud, ça va? Donc, Yudret, Yar, ça fait exactement Erech, Chaim. Arichut, Chaim. C'est la longue vie. Ça veut dire qu'ils ont perdu, ils ont retrouvé le droit à la longue vie à partir du 18 Iyar, qui est l'Akba Omer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, encore une fois, un avertissement, il faut pas faire du, si vous voulez faire du Lashon Hara, ne faites pas du Lashon Hara sur les élèves de Rabbi Akiba. C'est dommage de prendre un missile en pleine tête, en plein Paris. D'accord? Donc, il y a des gens sur qui parler si vous voulez vraiment vous défouler, ou l'âne. Bon. Donc, on va pas faire du Lashon Hara maintenant sur les élèves de Rabbi Akiba, parce que je sais la question. Ah, mais s'ils sont tellement grands, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris? Et pourquoi ils ont pu se conduire d'une manière pareille? Et moi, j'ai compris, donc je suis plus grand que les élèves de Rabbi Akiba. Diblinéder. Les élèves de Rabbi Akiba, de leur vivant, étaient des enseignants. Après leur mort, ils ont continué à être des enseignants. Parce que si aujourd'hui, on tire un enseignement des élèves de Rabbi Akiba, ça veut dire que les élèves de Rabbi Akiba étaient des enseignants. Maintenant, la période de la mort, où ils sont morts, c'est un enseignement. La manière dont ils sont morts, c'est un enseignement. La date de la fin de la mort, c'est un enseignement. Le nom lui-même, on a dit lève. Le mot, c'est encore un enseignement. Le nom du chiffre, c'est un enseignement. Ça veut dire que les élèves de Rabbi Akiba sont des enseignants. Ils sont restés des enseignants, donc on n'a rien à dire sur eux. La question, c'est de savoir par rapport à nous. C'est pour ça qu'il dit le Bnei Issachar. Bnei Issachar, il dit 49, c'est 49 jours. C'est quoi 49? C'est lève, tov. Lève, tov. Un cœur complet. C'est-à-dire une intériorité qui est entière. On a compris que cette intériorité qui est entière, quand elle est construite selon les lois de la Torah, avec tous les éléments qui sont nécessaires, alors ça a automatiquement des retombées sur toutes les dimensions. On a dit ton intériorité est construite, tes qualités morales, tes midot construites, ton corps, tu es en accord avec, construit, ton vécu, tu es en accord avec ton vécu, construit, les personnes qui t'entourent, tu es en accord avec, construit, et ensuite le monde, construit. Ça veut dire qu'un homme, il peut produire quelque chose de construit à l'intérieur de lui et diffuser dans le monde le Lev-Tov. Or, le Lev-Tov, c'est 49. 49, c'est quoi? C'est une résultante des 48 qualités qui sont nécessaires pour acquérir la Torah. Alors, faites-moi plaisir. Prenez le Pirkei Avot au chapitre 6, la Mishnah 6, 6-6, c'est facile à se rappeler, et vous lisez les 48 qualités qui sont nécessaires. En français, lisez. Et ces 48 qualités, raisonnez un peu dessus. Si vous pouvez, prenez des commentaires. Maintenant, il y a plein de livres en français sur Pirkei Avot. Regardez les commentaires. Mais même si vous ne regardez pas, réfléchissez. En quoi ça intervient dans l'étude de la Torah? Mais non, c'est une qualité qui est nécessaire pour toute la vie. Et quand vous allez raisonner qu'il y a 48 qualités et qu'il y a 48 jours plus 1 avant de recevoir la Torah, vous allez comprendre qu'en fin de compte, l'acquisition de la Torah, ce n'est pas quelque chose de culturel. Ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une commémoration d'une date. c'est une chose qu'on fait toute sa vie. Parce que plus tu vas améliorer les 48 qualités qui donnent accès à l'étude de la Torah, et plus tu vas acquérir la Torah, je vais dire mieux encore. Même la Torah que tu as déjà reçue, tu vas la recevoir à nouveau. Parce que tu vas à nouveau comprendre différemment. Donc ça veut dire que le développement de ton Lev Tov, il est infini. Pour que tu arrives, toi, un jour, les Yom Shekulo Tov, ce qu'on appelle un jour qui est entièrement bon, c'est Yom Tov. Pourquoi? Les Olam Shekulo Tov, dans un monde qui est entièrement bon, qui s'appelle Olam Haba. Maintenant, si tu arrives à réfléchir et à raisonner sur le sens de qu'est-ce que c'est quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier, alors tu as quelque part une dimension du Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, c'est un monde qui n'a pas d'erreur, c'est un monde qui n'a pas de toxines, c'est un monde qui n'a pas de... Il est complet. Donc puisqu'il est complet, il est accessible à des gens qui sont complets. Donc maintenant, pourquoi tu te sens bien avec des gens complets? Pourquoi tu te sens bien quand toi tu es complet? Pourquoi tu te sens bien quand tu es vrai? Pourquoi tu te sens bien quand tu fais des choses vraies? Parce qu'en vérité, ça c'est un avant-goût du Olam Haba. Maintenant, ça sera quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, ça sera la résultante de tout ce que tu as impliqué comme entité et comme chose complète durant tes 120 ans de vie, que tu vas retrouver dans une sensation globale de vécu complet. C'est ça le Olam Haba. C'est la sérénité de savoir que tu as fait ce que tu avais à faire et que tu es entier, que tu es construit. Alors maintenant, pour l'éternité, la micro-sérénité que tu as ressentie quand tu as fait quelque chose de bien, ça va durer éternellement et ce sera la récompense du Olam Haba. C'est pour ça que c'est marqué que les tzadikim, c'est quoi Olam Haba? Les tzadikim, ils vont profiter de la lumière d'Hachem. Mais c'est quoi la lumière d'Hachem? Ah, bataille, c'est pas shoot. Je vous donne un exemple petit, vous allez comprendre l'exemple grand. Quand t'as pas honte de regarder ton père en face, c'est que tu sais que t'as fait ce qu'il fallait. Donc pourquoi tu peux regarder ton père en face? Parce que t'es là, t'as fait ce qu'il fallait. Mais quand t'évites le regard de ton père, ben c'est pareil. Si toi, tu vas arriver là-haut et t'auras pas honte d'être en face d'Hachem, c'est parce que tu sais ce que tu as fait. Maintenant, cette fierté d'avoir fait ce que tu avais à faire, par rapport à la culpabilité de justifier ce que tu, de ne pas avoir fait ce que tu avais à faire, eh ben la culpabilité de ne pas avoir fait ce que tu avais à faire s'appelle l'enfer. Parce que c'est encore ce qui reste en faire. Par contre, le contraire, le paradis, c'est quoi? C'est le sentiment de sérénité profond que tu ressens d'avoir fait ce que tu avais à faire.